Bonjour, bonsoir à toutes les amies et les amis, j'espère que vous allez bien.
Bonsoir à toutes les amies. Ah oui, parce que t'étais connecté sur Twitch, c'est pour ça.
Ah ah, c'est sympa. J'aime bien le concept. Attends, faut que je vire ça, c'est ça?
Oui, non, c'est bon, je peux le laisser, j'ai coupé le son de ton
très
PC.
Très bien, nickel, c'est surprenant. Et alors, j'ai très peu de retours, si tu peux t'arranger pour faire un truc, ce serait très sympa, s'il te plaît. Merci beaucoup, bonjour ma chère Régie.
Ben bonjour, comment vas-tu?
Eh bien écoute, je vais pas te mentir, ça va moyen, le pollen me terrasse et c'est violent. Mais voilà, et toi?
Ouais, ça va. Bah écoute, cool. On a eu un.
Toujours pas moi... de retour, alors attends, qu'est-ce
toujours pas de retour, qu'est-ce qui t'arrive?
Je pense que c'est ça qui doit déconner. Ah oui, c'est bon, j'ai un retour.
Ah, il se casse
les les problèmes techniques, comme toujours, vous
contact.
Connaissez sur Acropolis. Si la famille, salut le chat, j'espère que vous allez bien, mais que fait la police? Salut Nicobod, salut Ornithorynxama, salut Bastoun, salut Aude, salut Ravn, salut Shortspace, salut Rio, salut El Tototo, salut Samy. Et merci à Korf et Perceval pour leurs abonnements respectifs. Et bonjour, vous connaissez la double ration de frites? Eh bien, effectivement, la double ration de frites qui pourrait être utile en ces temps de faim et de soif, surtout de soif. Hein. J'espère que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes. Et on doit également remercier La Miette pour ses 10 euros de dons sur Tipeee. Et attends, il y avait aussi. C'est les 10 euros mensuels que nous avait signalé Perceval sur.
Oui, mais on l'avait déjà fait, c'est ça.
Et donc, merci à toi, La Miette, pour ces petites miettes. Merci. C'est fameux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts à suivre avec moi cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Ça va être
chaud.
Attendez,
ça va être chaud aujourd'hui.
Ça va être chaud, effectivement.
C'est la canicule.
Tu penses qu'il y aura des questions sur la canicule?
Oh bah, je pense qu'il y aura des questions sur les maisons de santé, les choses comme ça.
Tout à fait, effectivement. La climatisation. Est-ce que enlever la cravate va permettre de nous sauver?
Oui, probablement, oui.
Il y a aussi Reynek qui a lâché 10 000 bits pendant le climarathon. Merci, effectivement. Merci, Reynek, pour les 10 000 bits pendant le climarathon. Mais alors, on se posait la question de combien ça vaut 10 000 bits?
Ça vaut à peu près 100 euros, à peu près.
Alors, ouais, il y avait deux versions qui...
En gros, 100 bits, c'est 10 centimes.
Ok, donc
ça fait... attends. Non, ça fait pas... Attends, au secours.
Parce que ce que nous disait, je crois que c'était Thibaut qui regardait et qui nous disait que ça faisait 100 euros. Confirmé 100 euros. Eh bien écoute, merci pour ces 100 euros. 135,49 €. Eh bien.
Ça en fait 10 000 bits égale 135,49 €, effectivement, c'est ça.
Merci Reinek 512 pour ces 135 €. Est-ce qu'ils ont la clim à l'Assemblée? J'en ai aucune idée. Je dirais pas que j'ai chaud, je dirais que je vis dans le piton de la fournaise. Oh, ça va. Allez en Inde, vous allez voir ce que c'est que d'avoir chaud.
Bon, nous, on a la clim ici, donc ça va.
Ouais, d'ailleurs, si on peut la mettre un peu, c'est cool.
Bah, il est déjà. Ah bah non, la clim s'est coupée, très bien. En fait, la clim, visiblement, ça s'est éteint. C'est pour ça que je me disais qu'il faisait vachement chaud d'un coup. Là.
Est-ce que la canicule va réussir à dégeler le point d'indice des profs? C'est une bonne question. Je vois bien aussi la PMA, la charge policière à Nantes, peut-être possiblement, et les fuites des sujets de bac. Effectivement, le report du brevet aussi, potentiellement. Ouais. Le service national universel, on en a eu la semaine dernière, donc je sais pas. Il y en a eu pendant les QAG que Jean a présenté ou pas?
Il n'y a pas de question.
Il y en avait une la veille avec moi, mais...
Ouais.
Non, dans l'hémicycle, la clim elle servirait pas à grand chose de toute façon. Ou alors, il faudrait beaucoup de clim, il faudrait une sous chaque siège pour que ça soit utile. Mais repère du brevet, c'est la première de l'histoire en France. Ah, les gars, ce genre de questions,
tu sais rien.
Je sais des trucs, mais enfin, je suis pas non plus une encyclopédie.
Terrible.
Non, là, je saurais pas te répondre, Samy.
Les gens m'entendent depuis tout à l'heure? Oui, ils m'entendent, c'est bon.
Vous entendez Raphaël ou pas?
Parce oui, c'est bon, c'est bon. Attends,
vous avez l'impression que je parle tout seul.
C'est pas grave. Non, c'est bon. Mais oui, ils ont reporté, mais bon, c'est pas non plus une nouvelle incroyable non plus. Quoi. C'est reporté combien de temps? Une semaine, c'est ça?
C'est du 1er au 2 juillet, alors que ça devait être aujourd'hui et hier.
Oui, ça devait une semaine, quoi. Bah, du coup, oui, alors ils ont pas reporté le bac, mais c'est parce que c'était les dernières épreuves hier, ouais. Donc c'est pas reporté juste pour une journée, c'était un peu con. Mais.
Ouais, surtout si c'est pour que plus de sujets fuient.
Oui, c'est ça.
Ce serait dommage.
Mais ouais, non. Bon, le report du brevet, oui, d'accord. Mais bon,
27 et 28, c'est pas au 1er de juillet que c'est reporté dans des lions. Mais non, je sais pas si c'est la première fois que c'est reporté ou pas. Mais par exemple, aux États-Unis, c'est très régulier de reporter des cours, enfin de reporter ou d'annuler des cours à cause des chutes de neige, notamment. Et, non, ça devait être jeudi et vendredi, reporté lundi et mardi. Pardon, merci. Ouais, aux États-Unis, c'est très fréquent de reporter des cours. Et de toute façon, il va falloir qu'on s'y habitue. Parce que si on reporte des trucs à chaque fois qu'il y a des incidents climatiques, je ne sais pas trop comment appeler ça, ça va falloir s'y habituer. Parce que ça va être de plus en plus fréquent. Hein. Comme
oui,
vous avez pu l'apprendre lors du climarathon de samedi. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez regardé le climarathon? Qui a regardé? En Allemagne, ils ont les annulations de cours à cause de la chaleur. Ouais, mais je crois que ça fait un petit bout de temps qu'ils ont ce genre de choses en Allemagne. C'est plus fréquent que chez nous. Et bon, c'est pas le seul pays, hein, je veux dire. Moi, j'ai bien aimé. Bien, écoute, merci Rio. Salut Super Bambi. Sans le tyran, tu as regardé. Qui a regardé les 11 heures enfin les 10h50 de Climarathon? Dites-moi. Des gens qui sont ici, qui nous ont découvert pendant le Climarathon, c'est une bonne question, effectivement. Est-ce que certains parmi vous nous ont découvert pendant le Climarathon ou pas? Tu nous as découvert pendant le Climarathon? T'as regardé les 11 heures, les 10h trois fois de suite? Les 10, 11 heures trois fois de suite, Tom Tom? Dart, tu as regardé. J'espère que ça vous a plu le Climarathon. Dites-nous, n'hésitez pas à nous faire des retours. Hein. Il y avait la fête de la musique le vendredi soir, effectivement. C'était quoi le concept du Climarathon? C'était 11 heures sur le climat, Samy.
C'est un marathon sur le climat, quoi.
Un marathon
C'est
sur le
un
climat. Comme son nom l'indique,
nom,
assez peu,
le nom
cela
est
dit.
plutôt
Hein.
réel. C'est vrai que le nom est pas très très clair, je suis désolé.
Dans les invités, les quelques invités que j'ai contactés, moi je disais bien le Climarathon, un marathon sur le climat. Parce que Climarathon, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Et je précisais que je n'étais pas responsable du nom. Je trouvais le nom perfectible, on va dire. Désolé, Clément, si tu nous entends.
Oh, ça va.
Pas tout regardé, mais le peu où j'ai passé une tête, c'était cool. Pas dispo, ça a été. Oui, c'était très bien, Lady Cassidy. Il y a eu aucun problème technique. On a eu des invités qui nous ont plantés, ce qui était un peu le seul souci. Mais à part ça, la moitié à peu près, le reste est prévu en replay ce week-end. Bel accueil, tout regardé sauf la partie avec Cécile Duflo, je peux pas. Pourquoi tu peux pas, Bastoun? T'as tort, parce que Cécile Duflo, moi je l'ai trouvée excellente au Climarathon pour le coup. Elle était très claire dans ce qu'elle disait, très. Et son discours avait du sens, je trouvais, était intéressant quoi. Le président du CESE vient d'annoncer que la réforme constitutionnelle est repoussée après les élections sénatoriales en septembre 2020. Ok. En même temps, c'est pas surprenant parce que c'est un peu ce qu'Édouard Philippe, dans son discours devant l'Assemblée et le Sénat, dans ses discours devant l'Assemblée et le Sénat, avait sous-entendu. Il avait sous-entendu que s'il n'y avait pas d'accord avec le Sénat notamment. Il serait probable que la réforme serait repoussée et il avait même fortement sous-entendu la menace de on va attendre les sénatoriales, on va attendre que vous preniez une branlée aux sénatoriales, mes chers sénateurs les Républicains, et ensuite on fera cette réforme. Ce qui est faire le pari qu'au sénatorial, la République, et donc au municipal, la République en marche fera un landslide, comme on dit aux États-Unis, une victoire très large. Ce qui est pas forcément donné, on en a parlé à plusieurs reprises. Bonjour, les QAG sont comme Jean-Pierre Duloiret en sueur. Tout à fait. Comme il y a de fortes chances que les sénateurs soient majorité d'En Marche, c'est bien joué ce coup. Ouais, c'est pas évident, c'est pas sûr et certain. Hein, pas sûr et certain. On verra, mais je pense que c'est pas évident qu'on puisse dire dès maintenant que c'est telle ou telle partie qui va gagner un raz-de-marée, merci, parce que c'est telle ou telle partie qui va gagner les sénatoriales. Faire des prédictions électorales en ces temps-ci, ça me paraît un peu risqué pour qui que ce soit. Salut Eldwin. Donc on verra. Mais donc oui, la réforme qui est reportée, c'est pas complètement étonnant. Il reste encore beaucoup de temps pour des prédictions. Tout à fait, Zermsfire. C'est tout à fait mon propos. Et les recompositions qui vont se faire au municipal, que ce soit au niveau local, au pluriel, ou au niveau national, à part si vous êtes dans les petits papiers de l'un ou de l'autre des partis, bien malin qui saurait deviner l'avenir, de la même manière que bien malin qui aurait su deviner. Le score des écologistes ou le score de la France insoumise ou le score des républicains aux européennes, quoi. Il y en a forcément un qui a prédit ça, mais est-ce que ça veut dire que c'est une prédiction qui valait quelque chose? C'est comme en économie, vous savez, en économie, en économie, vous avez toujours des gens qui vous disent la prochaine crise c'est pour demain, la prochaine crise c'est pour demain, etc. etc. Et si vous vous trompez, donc si la prochaine crise arrive effectivement demain, bah, j'avais raison, c'est bon, j'ai prédit la prochaine crise. Mais comme vous le faites chaque année, bah, c'était pas compliqué de se tromper. Et si la crise n'arrive pas, vous pouvez dire, ah oui, mais c'est parce que j'avais prévenu et c'est grâce à moi qu'on l'a évité. C'est les Nostradamus en économie, il y en a partout. Et c'est pareil pour les élections. L'électorat LREM se mobilise lui pour les élections, tout comme celui du FN. Donc bon, je sais pas si on peut dire ça. Moi, je reviens au théorème de l'électeur médian, le truc qu'on avait fait quand Mathilde était là, avait présenté avec moi. C'est pas tellement que l'électorat se mobilise, c'est juste que quand vous êtes une position centriste, vous êtes tranquille, vous avez toujours un électorat qui se mobilise pour vous parce qu'il veut lutter contre les gens de l'autre camp. Donc voilà quoi. Un téléphérique, un vélodrome couvert. C'était aussi la problématique état d'urgence. La problématique état d'urgence, c'est-à-dire. Prophétie autoréalisatrice. De quoi tu parles, énigmatique? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous êtes prêts à suivre avec moi ces questions d'actualité au gouvernement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez... Alors, il faut réaliser que là, il nous reste, on est le 25 juin. Il nous reste aujourd'hui, demain, et ensuite, il nous reste les 4 séances de questions d'actualité au gouvernement pendant la session extraordinaire, séances qui auront lieu en juillet, les mardis donc. Et après, c'est les vacances. Et après, on se retrouve à la rentrée. Mais donc, il nous reste pas énormément de temps pour discuter. Donc, si vous voulez qu'on discute de sujet, n'hésitez pas à me lancer, soit en intro, soit en conclusion. Mais pensez-y. Je ne sais pas s'il y a des trucs que j'ai évoqués à l'occasion de précédentes QAG et que j'ai jamais eu le temps d'expliquer. C'est quand les prochaines sénatoriales? C'est en 2020, Ravendegey. Ravendegey, je ne sais pas comment ça se dit. C'est en 2020. Il y avait la question que éventuellement ce soit soit repoussé, soit avancé avec la réforme constitutionnelle, parce que la réforme constitutionnelle prévoyait de réduire le nombre de parlementaires. Si vous réduisez le nombre de parlementaires et que vous faites les élections, donc pour rappel, le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Et ils ont un mandat de 6 ans. Donc ça, c'est 6 ans de mandat. 6 ans de mandat et tous les 3 ans, donc entre mes deux pouces il y a 3 ans, entre ce pouce-là et ce doigt-là il y a 3 ans, entre ce pouce-là et ce doigt-là il y a 3 ans, tous les 3 ans vous renouvelez la moitié du Sénat. Si les dernières étaient en 2017, les prochaines sont en 2020, en tout cas c'est la théorie. Si jamais vous faites un changement sur le nombre de sénateurs, vous réduisez le nombre de sénateurs et que vous renouvelez la moitié du Sénat en 2020, et bien d'un coup vous avez une série, la série 2014-2020, où vous élisez moins de sénateurs que l'autre série, la série 2017-2023, où en 2017 vous avez élu la moitié du Sénat, donc 348 divisé par 2, et l'autre moitié vous élisez ce que vous avez divisé, enfin ce que vous avez enlevé comme sénateur, donc j'en sais rien, mettons qu'il n'y ait plus que 300 sénateurs, bah, ça fait 300 divisé par 2, donc il y a une série où vous en élisez 174 et l'autre où vous en élisez 150. Voilà, et donc ça posait la question de bah, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un décalage à faire pour renouveler tous les sénateurs? C'était un truc qui était évoqué, qui évidemment était dénoncé en face, déjà par les sénateurs, ceux qui ont été élus pour 6 ans en 2017, qui avaient de bonnes raisons d'avoir les boules en disant bah, attendez, nous on a fait la campagne, pourquoi on va re devoir refaire une campagne? Mais surtout, quelque chose de ça à la limite, bon, tu te soumets au suffrage des Français, donc bon. Pourquoi tu râles? Mais aussi une autre critique qui était faite, qui est ah bah c'est arrangeant, ça tombe juste après les municipales dans une séance électorale, dans une séquence électorale qui est favorable à la République en marche. C'est juste un moyen pour la République en marche de réussir à renouveler intégralement le Sénat et mettre des sénateurs en marche. Bouh, c'est dégueulasse. Qui est une critique qui s'entend, ça, faut admettre que c'est une critique qui s'entend. Du coup, est-ce qu'on supprime le Sénat? Ça va être compliqué dans une constitution de supprimer le Sénat, Zormsfeier. Il faut savoir que dans une constitution, il y a quand même un truc qui est particulier, qui est que pour réformer le Sénat, il faut l'accord du Sénat. Alors, il faut aussi celui de l'Assemblée nationale, mais en général, c'est l'Assemblée nationale qui l'en... Enfin, c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui lance le mouvement, donc c'est moins un problème. Mais pour réformer le Sénat, il faut l'accord du Sénat, alors que le Sénat peut être contre la majorité. Et du coup, il y a pas mal de gens qui estiment que c'est un des gros trucs qui fait que notre Constitution est mal foutue. Il y a une autre partie des gens qui estiment que notre Constitution est très bien foutue, parce que quand tu veux réformer la Constitution, tu peux passer par l'article 11 pour le faire au lieu de l'article 89. Et à ça, les premiers répondent, ah oui, mais ça, tu fais un coup d'État. Ce que De Gaulle a fait en 1962 et tous les constitutionnalistes étaient là, enfin une bonne partie était là genre la constitutionnalité de cette réforme me paraît douteuse. Le Sénat a la fâcheuse habitude d'être dans l'opposition. Eh bien non, Sentel le tyran, figure-toi que non, le Sénat a la fâcheuse habitude de... Enfin, fâcheuse, ça dépend selon qui juge, mais le Sénat, jusqu'à aujourd'hui, avait la fâcheuse habitude, moi je trouve fâcheux, que ce soit, quel que soit le parti concerné, mais la fâcheuse habitude d'être dans le camp de la majorité, puisque sur les 60 ans de la Ve République, le Sénat a été pendant 57 ans aux mains de LR, UMP, RPR, etc. Et 3 ans aux mains de la gauche entre 2012 et 2015, ou 2013 et 2016, un truc comme ça, vérifier. Mais aujourd'hui, effectivement, le Sénat, le truc c'est que quand était au pouvoir, quand sont au pouvoir des partis qui ont envie de réformer la Constitution, à savoir l'EPS et La République en marche aujourd'hui, effectivement, le Sénat est... et dans l'opposition à droite, voilà. Le gouvernement en sueur. Est-ce que je crois que cette réforme constitutionnelle peut faire mal au Sénat? Effectivement, tu sors.
Aïe, aïe, aïe.
Du coup, le Sénat a surtout tendance à être majoritairement à droite. En tout cas, historiquement, jusqu'à aujourd'hui, oui. Le Sénat de la Ve République, il faut savoir que le Sénat des républiques précédentes pouvait fonctionner différemment. C'était, donc, on ne peut pas dire que le Sénat d'aujourd'hui c'était strictement équivalent au Sénat des républiques d'avant. Voilà, mais effectivement, dans la Ve République, le Sénat a très majoritairement été à droite. Il a été à droite pendant 57 ans sur 60. Du coup, il n'exerce pas son rôle de contre-pouvoir. Ça, faut juger sur pièce à chaque moment. Mais oui, il y a certains qui estiment que le Sénat votait plus docilement quand la majorité était de droite que quand la majorité était de gauche. Bon, une âge des sénateurs 90 ans, ça je me permets d'en douter, Cyberiog, je me permets d'en douter. Ils sont effectivement plus âgés. Je rappelle que pour être élu au Sénat, il faut avoir 21 ou 24 ans, je ne sais plus, 24 ans minimum. 21, j'ai un doute, je suis sûr que quelqu'un ira vérifier, je dirais 24. Mais au-delà de ça, surtout le mode d'élection des sénateurs fait qu'effectivement, en général, on préfère d'anciens élus locaux. Et que du coup, pour avoir été élu local, en général, t'es un peu plus. C'est un peu la maison de retraite de la politique. Je sais pas si on peut dire ça. Faut y être élu au Sénat quand même. Faut y être élu. Je sais pas de quoi vous parlez, Super Bambi. Ce matin, la justice a dénoncé coupable l'État concernant la pollution de l'air en Ile-de-France, accusé par le maire de Fabien, ses habitants. Y aura-t-il des répercussions suite à ça? Ah, j'ai pas vu, je peux pas te répondre, Super Bambi. Je sais pas. Mais pendant le climarathon, on a pu discuter avec Cécile Duflo de l'opportunité d'attaquer en justice l'État pour éventuellement réussir à le faire condamner et le forcer à mettre en place, à respecter ses engagements, en fait. Je rappelle que. Oxfam apporte ce genre d'initiative. On verra ce que ça donne. J'ai ma petite hypothèse sur le sujet. Je ne veux pas être pessimiste, donc je ne vais pas vous la dire, même si du coup, vous savez. Mais on verra. Et de toute façon, le temps de la justice prend son temps. Voilà, les pléonasmes. Thibaut réalise un petit questionnaire autour d'accomplice dans le cadre des cours. Si vous pouvez prendre 10 secondes pour le remplir, ce serait top. Ah bah, je vais aller le remplir. Est-ce qu'il y a la clim au Sénat? Est-ce qu'il pense à s'hydrater? Bonne question, dernière as. Pourquoi faire attendre quelqu'un jusqu'à ses 24 ans pour être sénateur? Après, être élu sénateur sous les 24 ans, c'est que t'es dans les petits papiers du parti. Hein. Mais je dis 24, allez vérifier, hein, je me trompe peut-être. La maison de retraite, c'est le conseil constitutionnel. C'est pas faux. C'est pas complètement faux. Aux US, c'est 35 ans. Et, pour être sénateur, ouais, c'est possible. Après, le Sénat américain et le Sénat français ne fonctionnent pas de la même manière aussi. Il y a un bouquin qui a l'air intéressant que je veux lire sur le fonctionnement institutionnel des Américains qui s'appelle It's Time to Fight Dirty, donc il est temps de se battre dans la boue, quoi, qui est écrit par un prof de sciences politiques américain. Et qui est à l'attention des démocrates, à l'attention, je ne sais pas, des démocrates. Et c'est en gros tous les moyens qu'ils auraient de, parce que vous savez que les institutions américaines sont clairement bloqués en faveur des républicains, à cause de la démographie notamment. Et un bon exemple, c'est que le Sénat est absolument pas représentatif de la population américaine, il est représentatif des États. Et il y a beaucoup de petits États qui sont aux mains des républicains, ce qui fait que les républicains ont la main sur le Sénat, alors qu'il y a beaucoup moins de gens qui votent pour les républicains que pour les démocrates. Et républicains, c'est la droite, et démocrates, c'est la gauche, pour rappel. Et donc ce mec-là a écrit un bouquin où il donne plein de techniques qui, sans changer la constitution américaine, parce que c'est trop compliqué, permettraient aux démocrates de rétablir l'équilibre, ou en tout cas d'utiliser les mêmes moyens peu honorables que les républicains pour essayer de prendre le contrôle. Et un des trucs qu'ils préconisent, c'est par exemple de couper la Californie en 7 États. Pourquoi ? Parce que si en coupant la Californie en 7 États, ça fait 7 États aux mains des démocrates. Ça fait, il y a besoin de, je ne sais plus de quoi il y a besoin pour que ce soit validé par les autres États, mais en gros, c'est beaucoup moins strict que de réussir à faire admettre de nouveaux États. Et ça voudrait dire du coup 6 États qui votent démocrates, qui auraient des sénateurs, et donc 12 sénateurs démocrates en plus au Sénat, et plein de trucs comme ça. Et ce bouquin a l'air vraiment rigolo, intéressant, et voilà. Et évidemment, beaucoup de démocrates disent, ça a pas mal fait parler dans le milieu démocrate. Beaucoup de démocrates disent oui, mais il ne faut pas qu'on arrive au niveau des républicains et qu'on soit aussi bas qu'eux dans notre gestion des équilibres politiques. D'autres répondent ouais, bah alors si on se comporte comme ça tout le temps, si on est les chevaliers blancs tout le temps, on risque de se faire avoir en permanence. Et donc il faut envisager de se battre comme ça. Et donc c'est un truc que je veux lire et qui a l'air intéressant. Voilà, mais je l'ai pas encore lu, donc voilà. Le Conseil constitutionnel ne répond qu'aux questions liées à la Constitution. Or, il n'y a rien concernant l'écologie, c'est une question de droit administratif quand tu attaques l'État. Effectivement, Saint-Ol le Tyran, à ceci près que c'est pas seulement la Constitution que. Le Conseil constitutionnel ne vérifie pas que la constitutionnalité des lois, il vérifie le. Enfin, si. Mais il vérifie la. Son contrôle de constitutionnalité est fait non pas, pas que face à la Constitution, mais face à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, qui comprend aussi le préambule de 1946, la déclaration de 1789 et surtout la charte de l'environnement de 2004. Et dans la charte de l'environnement de 2004, il y a potentiellement des trucs à trouver. Et voilà, ça se discute. Valéry Giscard d'Estaing est au Conseil constitutionnel. Tout à fait, il est au Conseil constitutionnel. C'est d'ailleurs le seul. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, maintenant, il y siège encore parce qu'il est un peu vieux, mais a priori, il continue à siéger au Conseil constitutionnel. C'est le seul ancien président qui le fait. C'est d'ailleurs pour ça que dans la réforme constitutionnelle actuelle, il y a eu un moment, je ne sais pas si ça y est encore, je n'ai pas suivi, mais il y avait une disposition qui était de supprimer la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Pourquoi, je vous explique après si vous voulez. Sauf ceux qui sont assidus, à savoir Valéry Giscard d'Estaing. Donc, comme Valéry Giscard d'Estaing continue à venir, eh bien, on voulait sauver le fait qu'il ait le droit de continuer à venir, histoire de s'éviter une polémique inutile à droite. Voilà. Et pourquoi est-ce que les anciens présidents de la République sont siègent au Conseil constitutionnel ? C'est hyper intéressant, l'histoire de ce truc-là. C'est pas du tout parce que c'était nécessaire en 58, etc. Il n'y a rien qui le justifiait vraiment. C'était pour caser Pompidou après son mandat présidentiel, pas du tout Saint-Ol le Tyran, parce que ça date de 58. Ça, c'était pour caser René Coty, notre Raïs à tous, parce que en fait, quand a lieu la crise d'Algérie en 58, René Coty fait un discours en mai 58, je crois, un truc comme ça, vérifiez la date, discours pendant lequel il dit je vais appeler le plus illustre des Français à devenir le premier des Français. Le général de Gaulle, et il dit très clairement à l'occasion de ce discours que si jamais les chambres, donc en gros il dit je vais nommer Charles de Gaulle président du Conseil, donc c'est l'équivalent à l'époque de Premier ministre, et c'était surtout le vrai chef du gouvernement à l'époque, et si jamais les chambres ne valident pas la nomination de Charles de Gaulle comme Premier ministre, eh bien moi, René Coty, je démissionnerai. Je donnerai ma démission de la présidence de la République. Ce qui du coup signifierait Enfin, c'était clairement un bras de fer de la part de René Coty, parce que normalement tu fais pas ça, quoi. Et donc c'était un retour d'ascenseur de la part de Charles de Gaulle. Donc Charles de Gaulle avait très clairement annoncé qu'il comptait réformer la Constitution. Et quand ils l'ont rédigé, quand ils ont rédigé la Constitution, Charles de Gaulle, Michel Debré, Fimelin, tous ces mecs-là, ils ont mis dans la Constitution le fait que les anciens présidents de la République siégeraient au Conseil constitutionnel pour trouver un endroit où caser René Coty, histoire qu'il soit tranquille, tranquille pour sa retraite. Qu'est-ce qui va se passer quand Jacques Chirac va mourir sur le plan politique? Qui va aller à ses funérailles, tu penses? Bah, tout le monde, TGM Bernard. Mais bon, politiquement, il est déjà, il n'existe plus, hein, Jacques Chirac. Oui, il faut 66% du Congrès américain pour faire passer une réforme constitutionnelle, ce qui est extrêmement compliqué. C'est séparé 51-49 et que les lignes politiques sont très strictes. Effectivement, changer la constitution américaine, c'est très compliqué. Surtout plus que le Parlement, plus que le Congrès américain, il faut, je crois, les deux tiers des États, il me semble, à vérifier. C'est peut-être les trois cinquièmes, je ne sais plus exactement le seuil, mais il faut une partie des États. C'est par exemple allez voir, il y a eu John Oliver qui a fait un segment là-dessus. Il y a une semaine, deux semaines, trois semaines, la loi qui, un amendement à la Constitution américaine pour inscrire dans la Constitution l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est un truc qui est en discussion entre guillemets depuis, je sais plus, 30, 50 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, longtemps en tout cas, qui a été voté par presque la majorité nécessaire des États, mais il en manque genre deux ou trois. L'égalité dans la loi entre les hommes et les femmes, Pouzou. Du coup, à l'occasion de ce segment, John Oliver explique ce qu'il faut pour faire passer un amendement, et bref, c'est compliqué. C'est pour ça que supprimer le second amendement qui autorise le droit de porter des armes, c'est compliqué. C'est pour ça que, pareil, pour admettre des États, les conditions sont compliquées. Donc, par exemple, Puerto Rico qui veut devenir le 51e État, ou Washington qui veut aussi devenir le 51e État, qui a plus de, l'un et l'autre ont plus de population que genre 10 autres États, n'arrivent pas à devenir de nouveaux États parce que la majorité des États ne veulent pas, parce que la majorité des États sont aux mains des républicains, alors que Washington et Porto Rico, c'est aux mains des démocrates, et donc évidemment les démocrates veulent bien, les républicains ne veulent pas, parce que ça modifierait les équilibres. Il y aurait par exemple, avec, si vous mettez Porto Rico et Washington comme nouveaux États, il y a 52 États aux États-Unis, donc on passe de 100 à 104 sénateurs. Les quatre nouveaux sénateurs seraient probablement démocrates. Aujourd'hui, les républicains ont la majorité au Sénat de 2 sénateurs, je crois, ou 3 peut-être. C'est peut-être 52-48 ou 51-49 ou 53-47, je ne sais plus. Mais donc, si vous passez à 104 et que les quatre nouveaux sont démocrates, eh bien, c'est les démocrates qui prennent la majorité. Les républicains ne veulent pas. Donc, ils empêchent ces deux nouveaux États de devenir de nouveaux États, etc. etc. Voilà, vous voyez un peu tous les verrous qui existent. Quel livre expliquant le fonctionnement de la Ve République en détail conseillerais-tu? Alors, parmi les bouquins que je peux te conseiller, des bouquins de droit constitutionnel, mais qui sont lisibles par des gens qui n'ont pas fait de droit, hein. Je te conseillerais Marianne Cohen Day, qui est plus thématique qu'autre chose, son bouquin. Je te conseillerais... je ne sais plus comment s'appelle son bouquin, mais... Tu cherches droit constitutionnel, Marianne Cohen Day, c'est un bouquin rouge qui fait, je sais pas, cette taille-là, tu devrais trouver. La constitution de la Ve République est expliquée et commentée par Guy Carcassonne et Marc Guillaume. Là, tu verras un peu les deux camps. Tu verras ce dont je parlais tout à l'heure, ceux qui estiment que l'article 89 pour réformer la constitution, c'est le seul, et ça fait de la constitution une constitution nulle. C'est plutôt le camp Cohen Day. Et ceux qui estiment que la constitution est très bien et qu'on peut passer par l'article 11 pour réformer, c'est le camp Carcassonne-Marc Guillaume. Je peux te conseiller les constitutions françaises de 1789 à nos jours, ou les constitutions de la France depuis 1789, un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qui est pas mal parce que ça refait l'histoire constitutionnelle française. Je peux te conseiller... moi, je me suis acheté un truc là récemment que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle « Textes constitutionnels étrangers » qu'il faut que je lise pour avoir un peu de notion de droit constitutionnel comparé. Colombia District, non, c'est pas un état, TGM Bernard. Qu'est-ce que je peux te conseiller d'autre? Je peux te conseiller. Il y a une autre constitution commentée par un mec, Simon Louis, Louis Simon ou Simon Louis, je sais plus. Fornery, un truc comme ça. qui est un autre commentaire de la Constitution avec une optique différente que celui de Carcassonne et Marc-Guillaume. Je sais pas ce que je peux te conseiller d'autre. Bon, enfin bon, ça te fait déjà 3-4 bouquins. Voilà. Les amis, il est 15h, je vous propose qu'on se lance un petit générique pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Qui déconne.
J'ai juste oublié de remettre le son, c'est pas grave.
Ah non, c'est ça. C'est okay. Bon, c'est le meilleur, c'est Pierre Milza et Bernstein, sort de la France 58 à nos jours. Effectivement, mais là, on essaie plus large que juste des bouquins sur la Constitution. Mais effectivement, Milza Bernstein, c'est un grand classique des préparationnaires à Sciences Po, notamment. Je n'ai pas lu en entier, pour être tout à fait honnête.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Jeannine Dubié.
Mais je vous conseille aussi, si vous aimez l'histoire, je vous conseille Nos ancêtres les Gaulois de François Reinhardt, qui est encore plus large en histoire, qui est intéressant.
Au commissaire Jean-Paul Delevoye seront rendus publics.
Au commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, on écoute ce rapport sera Jeannine Dubié.
L'occasion de respecter certains fondamentaux auxquels notre groupe Liberté et Territoire est très attaché. Le futur système doit rester solidaire, par répartition. Et redistributif.
Alors, on va faire une pause juste après et on va expliquer ce que c'est.
Minimum à tous nos retraités de l'ordre de 85% du SMIC. Il doit.
Ah, eh bien, je vais en profiter pour. Pendant qu'elle fait de la techno, je vais en profiter pour expliquer. On fait la pause après.
Retraités de l'ordre de 85% du SMIC. Il doit également permettre de renforcer les droits conjugaux.
Bien, pendant que la régie résout. Merci Thibault. Pendant que la régie résout les soucis.
Prendre en compte la pénibilité et les carrières longues. Mais au-delà de ces fondamentaux, la clé de cette future réforme réside à la confiance de tous les Français dans ce nouveau système. Or, cette confiance, vous l'obtiendrez par l'implication de tous les acteurs concernés et par une véritable concertation. Cette méthode a été utilisée par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Elle est la bonne, il faudra la poursuivre. Aussi, nous avons une inquiétude. Les partenaires sociaux seront-ils associés tout au long de cette réforme ? Cette inquiétude, elle est évidemment renforcée par la reprise en main du gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage. Vous nous répondrez que cette reprise est la conséquence de l'échec des négociations des partenaires sociaux.
Mais comment
aurait-il pu en être autrement alors que la feuille de route que vous leur avez adressée était intenable ? La réforme,
des retraites
ne va pas subir le même sort. Plus qu'un projet de loi, cette réforme doit être un réel projet société. Qui embarque tout le monde. Alors, Madame la Ministre, j'ai deux questions. Dans la gouvernance de ce nouveau système des retraites, quelle place entendez-vous donner aux partenaires sociaux et quelle place entendez-vous donner aux parlementaires ? Je vous remercie.
Excellente question. Alors, les parlementaires, évidemment, c'est le Sénat et l'Assemblée et le CESE éventuellement, mais les partenaires sociaux, ce sont les principaux syndicats professionnels d'employeurs et de salariés, bien entendu. Et elle a évoqué notamment retraite par répartition ou retraite par capitalisation. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, en France, on est dans un système de retraite par répartition. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, moi et vous, quand on cotise, on donne de l'argent à une caisse de retraite et cette caisse de retraite prend cet argent, le collecte et le répartit aux retraités aujourd'hui. Et donc voilà pourquoi on appelle ça par répartition. C'est un transfert entre génération jeune d'aujourd'hui et génération retraitée d'aujourd'hui. À la différence de la retraite par capitalisation, c'est le fait que quand je cotise, donc on n'a pas ça en France, ils ont ça par exemple aux États-Unis sous forme privée, quand je cotise, je mets de l'argent de côté pour ma retraite plus tard. Et donc je capitalise ma retraite, je constitue un capital qui deviendra ma retraite plus tard. Quels avantages entre les uns et les autres ? L'avantage de la retraite par répartition, c'est les inconvénients que va avoir la retraite par capitalisation, j'explique ça dans une seconde, mais l'inconvénient de la retraite par répartition, c'est que du coup, il faut un bon équilibre entre les jeunes et les vieux. Si jamais vous avez trop peu de jeunes ou trop peu de jeunes qui travaillent, beaucoup de chômage, etc., eh bien, ça va impacter sur les caisses de retraite et elles vont avoir ça va leur coûter cher de payer les retraites parce qu'il n'y a pas assez de gens pour cotiser. Ou si jamais vous avez la pyramide des âges, elle est élevée, vous avez beaucoup d'âgés et très peu de jeunes, pareil, vous avez un souci. Et donc si par exemple en Chine ils avaient la retraite par répartition, ils auraient très vite un sérieux souci parce qu'ils ont une pyramide des âges qui est comme ça. La retraite par capitalisation, quel est l'inconvénient? C'est que l'argent que vous mettez de côté pour capitaliser, c'est de l'argent qui ne vous sert pas. Et c'est un peu con de l'argent qui ne sert pas. De l'argent qui dort, c'est il perd de la valeur à cause de l'inflation, etc. etc. Et donc du coup, pour éviter qu'il perde de la valeur, on le place sur les marchés financiers via ce qu'on appelle les fonds de pension notamment. Et le souci, c'est que les fonds de pension, ils ont intérêt à faire le retour sur investissement le plus fort possible. Mais donc, prendre des risques. Et du coup, c'est ce qui donne des trucs comme la crise des subprimes. Parce qu'en prenant des risques, ils prennent trop de risques. Un moment, ça se casse la gueule. D'un coup, votre retraite par capitalisation, vous avez cotisé 10 000 par an pendant 10 ans. Vous devriez avoir 100 000 pour votre retraite. Et sauf que la bourse se plante, le fonds de pension auprès duquel vous avez capitalisé se plante. Et d'un coup, vous n'avez plus de retraite du tout. Et bien, c'est ce qui est arrivé à plein de gens aux États-Unis. Voilà les inconvénients de la retraite par capitalisation. Voilà, j'espère que c'était un peu clair. On reprend. Le mot impacté disparaît. Oh là, je fais ce que je veux. La langue, c'est un truc qui change. Allez voir les travaux de Laetitia Véron sur le sujet.
Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Jeannine Dubié, merci pour votre question qui me permet d'aborder un sujet qui tient à cœur à l'ensemble des Français. Vous parliez des principes. Je ne vous vois plus. Vous êtes là. Vous parliez de principes auxquels votre groupe et vous-même étiez particulièrement attachés. Permettez-moi de commencer par là pour rappeler que cette réforme est partie du constat suivant, que notre système de retraite aujourd'hui est particulièrement injuste avec 42 régimes différents. Les Français n'ont pas tous les mêmes droits aujourd'hui lorsqu'ils partent à la retraite. Notre système est illisible. Vous le savez, chaque Français est en moyenne affilié à 3 régimes de retraite différents. Je ne sais pas si vous-même vous avez fait l'exercice. Moi, je l'ai fait. C'est d'une complexité grande. Enfin, notre système est aujourd'hui instable et peu pilotable. Ce n'est donc pas une nouvelle réforme des retraites que nous conduisons.
Je rappelle que c'est une réforme d'une
concertation depuis
promesse de campagne d'Emmanuel Macron de fusionner les régimes de retraite.
Système de retraite qui repose sur un principe. Vous l'avez évoqué, nous y sommes.
Quelle erreur sur la crise des subprimes ?
L'universalité des droits, avec une volonté politique forte que de
permettre
que les retraites soient plus simples et plus justes pour l'ensemble des Français.
Non, il y a des fonds de pension qu'on vous fait pendant la crise des subprimes.
Elle lui permet de s'adapter aux évolutions de la société et d'affronter les défis.
Effectivement, c'est la titrisation qui a posé le problème.
J'en arrive à votre.
La titrisation, c'est le fait de paquer ensemble
des
actifs qui sont risqués pour faire disparaître le risque de leurs notes.
Et Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, a achevé début.
Mais c'est les fonds de pension qui vendent et qui achètent ce genre de trucs, donc les fonds de pension ont bouffé à l'occasion.
Et je crois pouvoir dire que l'ensemble des personnes.
J'ai pas dit qu'ils avaient causé ou précipité la crise. Vous m'écoutez pas, Stout Fatboy. Vous m'écoutez pas. J'ai dit qu'à l'occasion de la crise, ils ont bouffé. La même chose.
A été organisée avec l'organisation de 35 000 contributions et 220 000 votes au sein d'une plateforme. Le haut-commissaire continue à recevoir régulièrement des représentations de différentes professions. Il présentera ses propositions en juillet. Nous avons pris l'engagement de débattre en toute transparence avec l'ensemble des acteurs. Merci. Et nous serons également attentifs à la restitution du groupe de travail de la commission des affaires sociales sur la future réforme des retraites.
Ça suffit, monsieur le ministre.
Je suis heureux de souhaiter en votre nom à tous la bienvenue à une délégation du groupe d'amitié Égypte-France de la Chambre des représentants de la République arabe d'Égypte, conduite par son président, M. Ayman Abou Elela. Bienvenue.
Comment ça va? Bonjour à vous. Bonjour les Égyptiens. C'est très beau l'Égypte, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Comment va Al-Sissi? En forme?
La parole.
Après avoir tué son opposant précédent.
Pardon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, votre politique migratoire est en train de générer dans notre pays une augmentation spectaculaire du nombre d'enfants enfermés dans les centres de rétention au mépris de leurs droits fondamentaux. En 2018, 208 enfants ont été enfermés en métropole, soit 5 fois plus qu'en 2013, et 1221 à Mayotte. Pour le premier semestre 2019, le nombre d'enfants retenus est estimé à 153. À ce rythme, votre majorité est en passe d'atteindre le triste record de 2010 avec 356 enfants enfermés. Nous parlons de très jeunes enfants. 86% ont moins de 12 ans et sont enfermés pour des durées allant jusqu'à 20 jours. Ils évoluent dans un univers carcéral, confrontés à des situations traumatisantes et en contact direct avec des profils jugés à risque. Car depuis octobre 2017, les étrangers à situation irrégulière et sortant de prison occupent une place croissante dans les CRA, générant des incidents entre détenus. Que la France ne souhaite pas accueillir ses enfants et leurs familles sur le sol français en application des lois est une chose, mais qu'elle porte atteinte sciemment à leur intégrité physique et mentale dès lors qu'il existe des solutions alternatives est inacceptable.
CRA, c'est centre de rétention administrative.
Les 6 condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme dont fait l'objet la France, où les rappels à l'ordre du contrôleur général des prisons, du défenseur des droits et du comité des droits de l'enfant des Nations Unies.
Tout à fait.
À l'issue de votre loi Asile et Immigration, où vous aviez rejeté notre amendement contre la rétention des enfants, votre majorité...
Adeline Hazan et Jacques Toubon, respectivement,
des contrôleur général des prisons et... avait annoncé la préparation d'une proposition
défenseur des
de loi à ce sujet. Depuis, plus rien. Monsieur le ministre, allez-vous enfin donner des consignes pour faire de l'assignation à résidence des enfants la norme offerte par la loi de 2016 ?
Merci, madame la députée.
Question de Gisèle Biémouret pour les socialistes, ancienne vice-présidente du conseil départemental du Gers, représentante du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité, les sans-abri notamment.
A évidemment comme question pour le groupe socialiste. Jamais un enfant ne soit incarcéré. Mais en même temps, chacun a aussi...
J'entends, je la fais. Mais non, c'est tout fanboy. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, comme disait Coluche. Ouvre-la.
Or, sur la question migratoire, il y a des situations où des familles se retrouvent, toute la famille, en situation irrégulière et pour lesquelles il peut être décidé un placement dans un centre de rétention administrative. À partir de là, la question qui s'est posée dans votre hémicycle au moment de l'adoption et du débat de l'amendement dont vous avez parlé est assez simple. Accepte-t-on l'idée de séparer les familles ou considère-t-on, à l'inverse, que parce qu'il y aurait un enfant, il y aurait l'incapacité d'enfermer ou de placer en centre de rétention administrative les parents? Et je ne suis pas seulement sur le sujet migratoire, la question elle est globale. La décision qui a été votée dans cet hémicycle, c'est celle de permettre, au cas par cas, et il faut que le nombre de cas soit le plus faible possible, de permettre que dans des structures qui sont adaptées à l'accueil de familles, nous puissions avoir la possibilité de placer en centre de rétention administrative l'ensemble de la famille pour éviter qu'il y ait ces séparations. C'est évidemment, et vous avez cité Mayotte par exemple, le cas sur des délais extrêmement courts. En moyenne à Mayotte, c'est 48 heures maximum pour qu'il y ait des décisions qui doivent s'appliquer dans ce cadre-là. Donc comme vous, madame la députée, je crois que chacun ici est hostile au fait que l'on puisse placer dans des centres de rétention administrative des enfants, mais chacun sait que nous ne pouvons pas séparer l'enfant des parents et que nous ne pouvons pas accepter qu'au motif qu'il y aurait un enfant, ceux qui sont en situation irrégulière en France et qui n'ont pas vocation à rester en France soient exclus de ces dispositifs. C'est la raison pour laquelle il faut que ce soit exceptionnel et il faut que ce soit dans des lieux spécialisés pour être en capacité d'accueillir l'ensemble de la famille qui ensuite doit être, conformément au respect du droit, reconduite à la frontière.
Il y a la clim dans l'hémicycle, Zorro.
Merci, monsieur le ministre.
Est-ce qu'il a répondu à la question ? Je ne suis pas sûr. À part.
Merci, monsieur le président.
Faut que ce soit mesuré, évidemment, mais.
Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Nous fêtions hier les 15 ans de la fin des débats parlementaires sur la charte de l'environnement.
Adossé 2004, la charte de l'environnement, 2005, on en a parlé tout à l'heure.
Cet outil a permis d'adopter des décisions innovantes et protectrices de l'environnement en innervant l'ensemble de nos politiques publiques. Cependant, malgré des progrès, il nous reste beaucoup à faire. Tant l'urgence de protéger notre planète est impérieuse. L'épisode caniculaire...
Tu aurais dû venir au climarathon, Erwan.
...témoigne de manière concrète.
François de Rugy qui a tombé la cravate.
Nous approchons d'un emballement climatique qui pourrait être fatal. Oui, les dérèglements climatiques sans action de notre part vont transformer les équilibres de notre planète. Permettez-moi sur ce point de citer Henri Miller dans un ouvrage dont le titre « Le cauchemar climatisé » résonne fort à propos... Nul n'est besoin de faire de la Terre un paradis, elle en est un, à nous de nous adapter pour l'habiter. Par la création de nouvelles règles de droit que nous pouvons moderniser notre société, la façonner et la préparer pour les générations futures. Le droit crée notre relation au
bien.
Comment
fonctionne le roulement ? Ça alterne entre les groupes de la majorité et les groupes de l'opposition.
Ainsi, le groupe moderne a la conviction que le droit doit contribuer à préserver notre planète et ses équilibres. Nous devons faire œuvre créatrice et nous doter de nouveaux mécanismes de protection, notamment en réfléchissant à l'introduction d'une infraction d'écocide dans notre code pénal.
Qui est en réflexion au Sénat, qui a été déposé par des socialistes au Sénat, je crois,
des droits nouveaux,
qui a été ou qui va, je ne sais plus.
Des écosystèmes naturels vivants et de la durabilité de notre société.
Écocide, site situé. L'adoption
de la charte de l'environnement, quels outils juridiques allons-nous inventer pour prendre en compte les limites planétaires ? Comment basculer de l'humanité, maître et possesseur de la nature, pour reprendre le mot de Descartes, vers un modèle vertueux de tuteur et protecteur de la nature ?
Merci, monsieur.
Comment on devient tuteur et protecteur de la nature ? C'est la question d'Erwan Balanant. Erwan Balanant, il est photographe et réalisateur de profession.
Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés.
Ancien athlète de haut niveau en saut en hauteur. Il a réalisé des clips pour Florent Pagny ou Marc Lavoine, notamment. C'est rigolo. Investi par La République En Marche, mais il siège avec le MoDem. Il a évoqué la charte de 2004, effectivement.
Jacques Chirac et au travail de la rapporteure de l'époque qui était Nathalie Kosciusko-Morizet. Je crois pouvoir le dire en ayant dû convaincre particulièrement la majorité de l'époque et
dont il faisait partie.
J'ai eu de nombreuses tentatives par la suite pour revenir sur cette charte de l'environnement qui a été une avancée de notre droit de l'environnement. Comme vous le savez, nous ne voulons pas nous en tenir à des chartes ou à des proclamations générales, mais bien à une action et à une mobilisation générale.
Il faisait partie des Verts en 2004, François de Rugy.
Et le président de la République nous a demandé
à l'époque
de travailler à mobiliser.
C'était le bon temps. Quelle vie, les amis.
Le Conseil pour le climat. Le premier rapport va être rendu au Premier ministre aujourd'hui même.
Est-ce qu'il y a une question homéopathie? Non, d'Aurélis.
Tous les services de l'État, tous les ministères, et c'est le sens du Conseil de défense écologique qui se réunira une deuxième fois le 2 juillet prochain. Et enfin, mobiliser les citoyens avec la Convention citoyenne dont le tirage au sort, les 150 citoyens tirés au sort vont l'être
effectivement,
dans les semaines qui viennent. Et puis, bien sûr,
vous vous souvenez de l'annonce d'Emmanuel Macron lors de la conférence de presse il y a quelques mois.
Ici, à l'Assemblée nationale. Nous agissons aussi à l'échelle internationale pour soutenir le pacte mondial pour l'environnement qui donnerait un cadre juridique mondial. Nous souhaitons inscrire à l'article 1er de la Constitution de notre République, à égalité avec les autres grands principes qui font
ça changera rien, il n'y a pas de hiérarchie dans la Constitution.
De l'écologie, du climat et de la biodiversité pour pouvoir ensuite valider des lois qui vont dans ce sens. Et enfin, avec Madame la Ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous avons lancé une mission commune pour réfléchir concrètement à une justice de l'environnement qui soit plus efficace.
Merci, Monsieur le Ministre d'État. La parole est au Président André Chassaigne.
André Chassaigne, président du groupe Gauche démocrate et républicaine, les communistes.
Monsieur le Premier ministre, la canicule vient de s'abattre sur la France. L'Inde sort de plus d'un mois de canicule terriblement meurtrière. Le changement climatique ne relève pas d'une vue de l'esprit, c'est une réalité subie avant tout par la population la plus fragile. Les premières victimes sont les personnes issues des couches sociales les plus défavorisées, les individus les plus vulnérables. Lors d'un pic de pollution, elles ont 5 fois plus de risques de mourir. Nous pensons aux personnes âgées, aux sans-abri, aux classes populaires qui n'ont pas la capacité financière de faire face à l'augmentation des coûts liés à l'énergie, aux assurances contre les risques, à l'habitat mal isolé. Nous pensons aussi aux ouvriers du bâtiment, aux agents de voirie et tant d'autres. Pour eux, c'est la pénibilité du travail qui augmente avec les températures. Pour nos paysans et ouvriers agricoles, s'ajoutent à la dégradation des conditions de travail les aléas climatiques qui entraînent perte de récoltes et de revenus. Quant aux consommateurs, la raréfaction des ressources et le caractère plus aléatoire des conditions de production sont synonymes d'une augmentation des prix.
C'est un discours de gauche de constater que c'est les pauvres qui sont le plus impactés par le réchauffement climatique, tu trouves, toi ?
Face à ce constat,
c'est un constat, hein.
Face à l'urgence climatique, l'action gouvernementale ne peut se limiter à des slogans, à des postures médiatiques ou propositions saugrenues évacuant les vraies solutions. La réalité, c'est que votre déficit de volontarisme se traduit par une absence de politique publique structurante. Monsieur le Premier ministre, des actions fortes s'imposent. Je citerai une seule.
Il y aura une vraie canicule ou c'est juste 2-3 jours? On ne sait pas, Kerpastek, on va voir.
Accorder la gratuité.
Ou pas, si on va peut-être mourir.
Voilà Voilà une mesure concrète pour diminuer la circulation automobile, pour diminuer la pollution de l'air. Cette mesure peut être immédiate. Elle peut être immédiate, elle doit l'être.
Merci, monsieur.
André Chassaigne qui demande la gratuité des transports en commun. Est-ce qu'il inclut les trains dedans ? Je ne sais pas, j'imagine. Je ne sais pas. Pour éviter qu'on ait recours à la voiture.
Mesdames et messieurs les députés,
au moins c'est clair.
Monsieur le président Chassaigne, vous m'interrogez sur l'épisode de très forte chaleur que notre pays a commencé à connaître et qui devrait se poursuivre dans des proportions rarement atteintes en France, si l'on en croit les prévisionnistes, jusqu'au week-end prochain. Cet épisode de très grande chaleur expose, vous avez eu raison de le dire, monsieur le président Chassaigne, directement les plus fragiles de nos concitoyens. Fragiles soit parce que leur santé est fragile, fragiles parce que, le cas échéant, leurs conditions de travail les exposent plus que d'autres à cette très grande chaleur et aux risques sanitaires, à l'inconfort d'abord, mais aux risques sanitaires qui peuvent découler d'une exposition trop longue à ces très fortes chaleurs. La première des choses à faire, monsieur le président, et je sais que vous l'avez à cœur, c'est d'être attentif et de rappeler les conseils qui sont, pour ceux qui les connaissent et pour les sachants, si j'ose dire, et notamment pour l'ensemble des personnels médicaux, des conseils de bon sens.
Alors qu'en 2003, concrètement, personne n'en faisait un plat. Les 70 000 morts de 2003, personne n'en faisait un plat, Gunam. Je crois que tu as raté un truc.
À pouvoir accéder à des salles qui sont plus fraîches lorsqu'elles existent. Prendre soin, monsieur le président Chassaigne, je suis certain que vous y serez sensible, prendre soin de nos propres concitoyens en veillant à ce qu'ils aillent bien, en s'informant sur l'état de santé de ses voisins, en étant attentif aux signes et aux premiers signes de déshydratation qui peuvent intervenir chez ceux que nous croisons, soit dans la rue.
70 000, ouais, en Europe, c'est un truc comme ça, Charles Maurice. En France, précisément, je ne sais plus, mais ouais, en France, ça devait être 10 ou 20 000, un truc comme ça, ouais.
Particulière.
Mais ça avait éclaté tout le monde en Italie, en Espagne.
Pour laquelle, notamment, le ministre de l'Éducation a indiqué que nous allions reporter les épreuves du brevet qui étaient prévues jeudi et vendredi. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il nous a paru, même si cela pose plein de questions, et même si ça
70 000 en Europe, 20 000 en France, dit Wikipédia.
Et même si ça ennuie parfois un certain nombre de nos concitoyens parce qu'ils s'étaient organisés autrement, il nous a paru de bonne intelligence de veiller à ce que nous n'exposions pas les enfants qui sont en troisième à des périodes trop longues dans des salles de classe, dans les conditions que nous connaissons au moment de l'épreuve du brevet.
Et effectivement. Donc, par contre, au SNU, on peut, mais dans les salles de classe, non.
À un moment où nous dit-on, la température sera plus raisonnable, si j'ose dire, ou en tout cas plus normale.
J'ai oublié que ça a été sur. Ah bah si, la canicule de 2003, les amis, c'était plus que violent.
Partout où on accueille des publics, on pense bien entendu aux crèches, on pense aux établissements pénitentiaires.
On ne pas corriger les copies des collégiens morts. Bref, puis le Derman.
On accueille des publics et notamment des publics vulnérables.
On sent que tu as à cœur de bien préserver les finances publiques.
Au-delà de cette urgence, au-delà de cet épisode extrême que nous attendons jusqu'à la fin de la semaine, il y a un certain nombre de constats. Le fait que, notamment, ces épisodes extrêmes se répètent de façon de plus en plus rapprochée et que la normale est en train de devenir le normal.
Le gouvernement continue à brasser de l'air et en période de canicule, ça fait plaisir.
Que nous devons donc, au-delà des mesures d'urgence,
c'est un avis, Eric.
Mais elles ne sont pas suffisantes, nous adapter notre société, adapter notre bâti, adapter notre urbanisme, adapter notre architecture, adapter nos services publics, à faire en sorte que
jusque-là, tout le monde est d'accord, je pense,
être à la hauteur de cette transformation qui est déjà là et qui va continuer à produire ses effets. Et ça passe par toute une stratégie qui a été mise en œuvre. Et d'ailleurs, un certain nombre de dispositions ont été discutées dans cet hémicycle. Je pense notamment à un certain nombre de dispositions qui étaient prévues dans la loi Elan pour végétaliser un certain nombre de bâtiments, pour faire en sorte que l'urbanisme prenne mieux en compte la nécessité de rafraîchir, si j'ose dire, les villes.
André Chassaigne qui est là.
Une fois que nous avons
adapté
notre façon de vivre et notre architecture, notre urbanisme à ces enjeux, nous devons prévenir le fait que ce soit encore pire dans les années qui viennent. Et c'est là encore un sacré enjeu. Et nous le faisons, monsieur le président.
Ah, t'es pas né en 68, Bastien ?
Avec des mesures qui sont ambitieuses, que vous connaissez parfaitement, qui produiront leurs effets dans le temps, bien entendu, mais qui montrent la volonté que nous avons d'être à la hauteur.
Le président lui a demandé de décourter ou lui a demandé le calme ?
De décréter ou de décider de la gratuité totale des transports publics. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi seulement des transports publics locaux, monsieur le président Chassaigne. On pourrait imaginer la gratuité de tous les services publics qui.
Ce n'est
pas le choix que nous faisons pour deux raisons. D'abord, la question de la détermination des tarifs et des prix s'agissant des transports publics locaux
est une
décision locale. Et vous insurgeriez probablement, Monsieur le Président Chassaigne,
enfin, go, vas-y, fais-le.
Si
bah oui,
le
grave.
Gouvernement, et peut-être même, qui sait, en tout cas le gouvernement, venait s'immiscer dans le fonctionnement et dans les décisions prises par les organisations locales, par les... par les collectivités territoriales qui gèrent leur transport public.
Chassaigne qui rigole. Ah, ok. Chat perché.
Il leur appartiendra, si elles le souhaitent, certains l'ont déjà décidé, d'autres ne le décident pas. Il leur appartiendra de prendre des décisions.
Pas de majuscule, les amis, s'il vous plaît.
Ou pas, c'est à elles qu'il revient de prendre des décisions. Ce que nous avons souhaité faire, c'est prendre des mesures d'urgence pour favoriser les circulations alternées, pour éviter l'accès dans les zones très denses des véhicules les plus polluants. Dans le moment de pic.
Et tu dis ça fait plus de 2 minutes, mais je rappelle qu'Edouard Philippe peut parler plus peut parler autant de temps qu'il veut.
Monsieur le Président Chassaigne, urgence, vigilance, adaptation, prévention, c'est en faisant tout cela que nous serons à la hauteur des enjeux. Ils sont considérables et nous savons qu'au fur et à mesure des années qui viennent, ils ne vont pas diminuer.
Merci, Monsieur le Premier ministre.
Mais donc, pas de gratuité des transports, dit Edouard Philippe, parce que ce n'est pas... de ma compétence. Je ne veux pas prendre la compétence, je veux laisser la compétence aux collectivités locales qui sont en charge des transports communs locaux.
Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités. Madame la Ministre, Météo France confirme un épisode de canicule niveau orange aujourd'hui et prévoit que cet épisode serait proche de celui rencontré en 2003, toutefois ne durant heureusement qu'une semaine. Nous savons que vous avez organisé une forte sensibilisation sur les mesures de prévention, une forte mobilisation, tant au niveau local qu'au niveau national, sur ce sujet qui peut susciter inquiétude et angoisse chez nos concitoyens, surtout chez les plus vulnérables. Je veux parler notamment des personnes âgées, mais pas seulement. Au-delà des outils nombreux que vous avez mis à disposition, et la communication des mesures de prévention habituelles. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelles sont les mesures exceptionnelles que vous avez prises concernant notamment les établissements de santé ou d'hébergement des personnes vulnérables et celles concernant les urgences ou la médecine de ville ? Je vous remercie.
Pardon, merci, je lisais un message.
Je suis désolé. Auprès de la ministre des Solidarités.
Monique Iborra, vice-présidente de la commission des affaires sociales, notamment sage-femme de métier, ancienne du PS, exclue parce qu'elle n'avait pas soutenu la candidate du parti aux élections régionales, qui a rejoint La République En Marche depuis.
Du fait qu'elle touche pour la première fois une part à ce point importante de notre population, de par sa récurrence probable.
Continuez, monsieur le ministre.
On parle de sujets un peu sérieux. Si vous pouviez. Je ne sais pas en quoi ma tenue pose problème.
Vu la chaleur,
il faut adapter.
Pour répondre à la question de Madame Iborra.
Bon. C'est parce qu'il n'a pas la cravate, c'est ça ?
Continuez, Monsieur le Ministre.
Ça râle parce qu'il n'a pas la cravate.
Monsieur le Premier Ministre, effectivement, la normale va devenir la norme et il est important que nous mettions en place toutes les mesures de prévention qui sont nécessaires. Je peux vous assurer évidemment que tous les services de l'État sont mobilisés pour ce faire. De la même façon, au niveau local, vous l'avez évoqué, toutes les structures d'accueil collectif et en particulier les crèches, les écoles, les centres de loisirs ont pris toutes les dispositions qui s'imposaient pour faire face à cet épisode de chaleur et accompagner les personnes pour éviter notamment les phénomènes de déshydratation. Une attention particulière doit être portée notamment aux écoles puisque pour la première fois ce phénomène...
Et du coup la régie qui cherche tous les gens qui n'ont pas de cravate.
Et vous pouvez compter sur le ministre de l'Éducation nationale qui a fait montre de son anticipation sur le sujet, tout comme la ministre du Travail s'agissant des travailleurs en
emploi. Je vais être très franc, c'est insupportable. On essaye de vous rendre la vie politique simple et compréhensible, de vous montrer que c'est plus compliqué que juste...
66 est opérationnel depuis hier matin.
Que juste, ils sont tous pourris, de vous montrer qu'il y en a qui bossent, que c'est des mécanismes compliqués, qu'il faut les comprendre, etc. Je suis
convaincu que l'ensemble des EHPAD, notamment, ont mis en place le plan bleu...
Et puis après, vous avez ça, quoi, ce genre de scène où même nous, on est en train de se dire « Putain, mais vraiment, quoi ».
Pour l'ensemble.
Comment tu veux faire une bonne publicité à des gens qui se comportent comme ça ?
Notamment ne jamais les quitter des yeux près des points d'eau. L'année dernière, c'était plus 30% de noyades qui étaient constatées.
Pour transmettre les commissions palais-QAG. Je sais, Zorou, on l'a fait quelques fois, mais.
L'implication de l'ensemble des.
La parole plus compliqué à suivre les commissions, quoi.
Viala.
Et je sais, je.
Merci, Monsieur le Président.
Bon, bah écoutez.
Il ne faut pas faire la chasse au diesel. Il y a un continent entre le diesel.
François devrait porter la cravate lorsqu'il présente les QAG. Je passe des entretiens en ce moment, donc dis-toi que la cravate.
Le président de la République devant les maires de Normandie, et ça n'est pas vieux, c'était lors du grand débat le 15 janvier 2019. Monsieur le Premier ministre, vous avez vous-même à maintes reprises exprimé votre compréhension des difficultés des Français des territoires où l'on parcourt de longues distances, de la réalité scientifique de moteurs diesel modernes, vertueux, dont on détourne abusivement les choix des consommateurs. Malgré tout, notre filière automobile est sacrifiée sur l'autel d'un dogmatisme aveugle.
La cravate, c'est un signe de respect envers la République.
Département de l'Aveyron, une usine
je pense que la République est outrée quand t'as pas ta cravate.
Voit ses 1500 emplois menacés.
Jean-Luc,
mon collègue à l'avis. Ce sont 320 personnes qui perdent leurs emplois. Et selon une étude de l'UMM, ce sont 15 000 emplois qui risquent de disparaître.
Moi, je suis d'avis que c'est un truc de classe, la cravate.
À cause du diesel bashing. Dans la loi L'Homme, la majorité
t'es ni plus ni moins intelligent quand t'as une cravate.
Véhicule thermique à horizon 2040.
Et que tu peux être très efficace en t-shirt.
La France n'est prête ni sur le volet industriel, ni pour nos concitoyens des territoires ruraux. Depuis des mois, le gouvernement atermoie, avec d'un côté l'environnement.
Je sais pas si vous avez vu celui qui était là-haut, là. En chemise blanche, il était.
Dangereuse. Et de l'autre côté, l'économie, qui argue que leurs performances les rendent éligibles à la vignette critère 1.
Si vous voulez en fin de stream, on peut parler de l'origine de la cravate. N'allez pas googler, j'essaie de vous faire deviner.
Les salariés,
c'est
la
drôle.
France face à des industriels qui ne voient pas le retour sur investissement, les usagers qui n'ont plus vraiment le choix, et notre environnement avec plus de moteurs essence et donc plus de gaz à effet de serre.
Je suis pas marxiste, Bobo.
Monsieur le Premier ministre, vous venez enfin de lancer l'étude scientifique sur les émissions polluantes des véhicules de dernière génération. Dans quel délai vous engagez-vous à mettre fin au diesel bashing en rétablissant la vérité et en délivrant la vignette critère A au diesel moderne? Je vous remercie.
Fin au diesel bashing, c'est ce que demande Arnaud Viala. Arnaud Viala, conseiller municipal de Vézin de Lévézou, dont il a été maire pendant 10 ans.
Monsieur le Président,
conseiller général de l'Aveyron pendant 10 ans également.
Arnaud Viala.
Un proche de François Fillon.
Nous faisons la chasse
lui dans l'Aveyron.
Aucun véhicule automobile. Nous faisons la chasse aux véhicules polluants. Et nous voulons avoir une industrie automobile qui soit performante, qui crée des emplois, qui maintienne des sites industriels et qui soit à la pointe des technologies de demain. Nous le faisons sur les batteries électriques puisque nous avons créé de toutes pièces avec l'Allemagne une nouvelle filière de batteries électriques qui nous permettra d'être autonomes et indépendants en matière de batteries électriques avec à la clé des milliers d'emplois.
Est-ce que la veste est obligatoire à l'Assemblée nationale? Une tenue correcte est obligatoire.
Nous le faisons sur l'hydrogène, car je pense que sur le long terme, l'hydrogène peut être une technologie parfaitement envisageable et performante. Et nous ne faisons, je vous le rassure, et vous le savez, nous en discutons souvent ensemble avec vous, avec les élus locaux, aucun diesel bashing. Ce que nous voulons, c'est des véhicules.
Heureusement qu'on n'a pas
respectueux de l'environnement
l'Écosse qui dans la République, parce que s'il y en a qui seraient amenés en kilt, on se poserait la question de est-ce que c'est une tenue correcte ou pas.
À partir de la mi-juillet, pour répondre très concrètement à votre question.
C'est quoi la tenue correcte? C'est à l'application à l'appréciation de chacun.
Sur les émissions liées aux véhicules thermiques, qu'ils soient essence ou qu'ils soient diesel, c'est pas à nous de choisir entre les types de motorisation. La seule motorisation qui compte pour nous, c'est celle qui protège l'environnement des Français. Cette étude, pour qu'elle soit efficace, elle doit être nouvelle, elle doit être faite dans des conditions de circulation réelles et elle doit être faite aussi sur des véhicules qui ont déjà beaucoup roulé pour s'assurer que...
Merci Déclanter pour ce 13e mois de soutien, merci à toi.
Et s'agissant du site Bosch de Rodez, vous savez...
Pensez au Twitch Prime et au sub et au soutien, on compte sur vous, au follow notamment, et à partager ce stream aussi.
Pour maintenir les emplois, nous savons que dans la filière diesel, il y a 10 à 12 000 emplois directs qui sont...
La République préfère les toges.
Tout pour préserver ces emplois et pour assurer la requalification de ceux qui auraient besoin d'aller vers d'autres orientations industrielles.
Merci, monsieur le ministre.
Est-ce qu'ils sont meilleurs avec ou sans cravate? Est-ce qu'ils sont efficaces? C'est une bonne question.
Sinon,
bon, je n'ai pas trop écouté la réponse de Bruno Le Maire, je suis désolé.
Mais monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Bruno Le Maire qui va protéger les emplois, comme toujours.
Norvégien et japonais dans le détroit d'Ormuz, commandité selon Washington par l'Iran, a très sérieusement ravivé les tensions entre les deux pays. Elle a été suivie de la destruction...
Si on vient en public à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut venir en t-shirt 3C? Bonne question, on va tester 12 juillet, Pastèque. Iranien.
Ces derniers jours, les États-Unis ont annoncé de dures sanctions contre l'ayatollah Ali Khamenei et plusieurs hauts gradés des gardiens de la Révolution.
Qui n'est pas l'ayatollah...
Votre homologue, monsieur le ministre, le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zafir, pourtant considéré comme un modéré, visage de la politique iranienne de détente en Occident. Cette situation est en soi extrêmement préoccupante. En tant que président américain adepte des coups de menton et des tweets vengeurs et une reprise en main du pouvoir iranien par les plus radicaux. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous livrer le plus clairement possible votre analyse sur les risques réels d'escalade d'un conflit qui déstabiliserait gravement la situation régionale dans le golfe arabo-persique, risquerait de créer des réactions en chaîne difficilement maîtrisables des pays concernés et, en un mot, impacterait gravement l'ordre du monde. Dans ce contexte de tension extrême, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier à l'unanimité, au dialogue et à des mesures pour mettre fin aux tensions, tout en refusant d'inscrire dans la motion une responsabilité étatique particulière. Pouvez-vous, monsieur le ministre, expliquer les efforts entrepris par la France pour trouver les voies d'apaisement du conflit ? Notre pays entend-il en particulier participer à la demande américaine d'une coalition pour sécuriser la navigation dans le Golfe ? Quelles sont les voies diplomatiques aujourd'hui disponibles, y compris au plan européen, à quelques jours seulement de l'ouverture du G20 au Japon, pour ramener les parties à la raison et maintenir le dialogue ? Je vous remercie, monsieur le ministre.
Excellente question de Didier Paris, qui s'inscrit dans le cadre des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Ça ne vous a pas échappé. Guerre ou pas guerre, c'est une bonne question. Il a mentionné notamment l'ayatollah Khamenei, qui n'est pas le même que l'ayatollah Khomeini, qui lui est mort il y a 30 ans, qu'a mentionné Donald Trump lorsqu'il signait son décret. Sanctionnant l'ayatollah Khomeini, mort depuis 30 ans. Et Didier Paris, s'il pose cette question, c'est parce qu'il est vice-président du groupe d'amitié France-Iran.
Niveau économique. Alors l'escalade, elle est militaire. Vous l'avez souligné, à la fois avec les incidents sur les pétroliers, avec l'attaque du drone américain, avec aussi les représailles envisagées par le président Trump, finalement, auquel il a finalement renoncé, mais les représailles, l'escalade, elle est aussi nucléaire, puisque l'Iran a annoncé sa volonté de ne plus respecter certaines obligations de l'accord de Vienne, en particulier sur les stocks autorisés d'uranium faiblement enrichi à partir du gaz.
En même temps, les États-Unis se sont retirés, eux, de ces accords, donc forcément,
les prochains jours,
l'Iran a un peu l'impression d'être le dindon de la farce.
Ainsi qu'une violation iranienne serait une grave erreur et une mauvaise réponse à la pression exercée par les États-Unis. Alors, la diplomatie française, allemande, et britannique,
très franchement, moi je serais à la place des Iraniens, je comprends les Iraniens quoi. Tu signes un accord avec la communauté internationale,
compléter mon
les États-Unis s'en retirent.
Qu'il nous faut agir ensemble pour éviter l'escalade. C'est vrai que les initiatives américaines d'hier sont plutôt perturbantes, mais j'observe que dans le même temps, le président américain.
Plutôt perturbant, ça fait rire.
Est ouvert au dialogue. Et le président Rouhani aussi. Donc j'espère que les discussions qui auront lieu en fin de semaine permettront de le constater.
Merci, monsieur.
On suit ça, nous dit Jean-Yves Le Drian.
La parole
rien de plus. En même temps, si vous voulez qu'on fasse, on ne va pas, pas envahir les États-Unis ou l'Iran.
À monsieur le Premier ministre. Lorsqu'Emmanuel Macron, à l'époque...
Toujours pas abordé la bavure de Nantes, non, Samy.
...avait autorisé la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric... Nous avions été un certain nombre sur les bancs de cette Assemblée à être inquiets et à prévoir un saccage industriel, une perte de compétences.
Fais gaffe à pas te tromper de dossier, Nicolas.
Issue de générations d'ouvriers et d'ingénieurs français. Comment réussir la fameuse transition énergétique dont on parle tant si nos centrales nucléaires, hydrauliques, thermiques, renouvelables dépendent du bon vouloir d'une multinationale issu d'ailleurs d'un pays qui a rompu l'accord de Paris sur le climat. À l'époque, on avait dit que nous étions pessimistes. Et Emmanuel Macron, dans un communiqué que vous pouvez retrouver, du 5 novembre 2014, toujours sur le site du ministère de l'Économie, annonçait que toutes les activités d'Alstom et de General Electric seraient préservées en France. 4 ans après, le fiasco est total.
Il n'a pas complètement tort, Nicolas Dupont-Aignan.
Par General Electric, 1045 emplois seront supprimés, dont 991 à Belfort, sans parler des 345 à Grenoble. Alors, la commission parlementaire présidée par Olivier Marleix a révélé le rôle particulier d'Emmanuel Macron comme ministre de l'économie dans le pillage d'Alstom par General Electric. Est-ce la raison pour laquelle votre gouvernement avale couleuvre sur couleuvre et ne réagit pas face à General Electric, signant la mort de Belfort. Est-ce la raison ? En vérité, il existe une solution. La réappropriation par la France des activités énergétiques pour bâtir un grand pôle industriel de la transition énergétique. Et la seule question à poser, c'est est-ce que votre gouvernement va continuer à laisser dépecer notre industrie après Technip, Alcatel, Lafarge et maintenant Alstom.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire.
C'est pas une mauvaise question. Enfin, quoi qu'on pense de Nicolas Dupont-Aignan, c'est une question tout à fait pertinente sur la situation d'Alstom qui aurait été bradée selon Olivier Marleix qui l'a évoqué, bradée à General Electric.
Je pourrais vous laisser le bénéfice du doute sur la confusion totale que vous faites dans le dossier GE Alstom. Mais j'ai peur qu'elle soit strictement volontaire et dictée par des considérations purement politiciennes. Vous savez très bien, monsieur Dupont-Aignan, que les activités électriques d'Alstom ont été vendues à GE en 1999, à une époque où Emmanuel Macron, à ma connaissance, n'était pas encore ni ministre de l'économie, ni président de la République française. Vous faites la confusion, mais je pense qu'elle est volontaire, monsieur Dupont-Aignan, avec la vente en 2014 des activités transport à GE, qui n'a absolument rien à voir avec le plan social de 1000 emplois qui concerne aujourd'hui les activités de turbine à gaz de GE. Ce n'est pas comme ça qu'on fait dignement de la politique, monsieur Dupont-Aignan, ni en entretenant la confusion, ni en entretenant le mensonge, ni en faisant de la politique sur le dos de salariés qui sont aujourd'hui légitimement...
Vous voyez Nicolas Dupont-Aignan qui essaye de montrer sa convocation pour le bac, t'es con.
Nous, dans la majorité...
Et les huissiers qui lui disent vous n'avez pas le droit. C'est la règle de l'Assemblée nationale.
J'aurai l'occasion de le dire dans les prochains jours au président de GE, Larry Culp. Le plan social qui a été annoncé par GE ne convient pas et il doit être révisé. Le plan social doit toucher moins de salariés que ce qu'il touche. Le plan social doit permettre
pas le droit de montrer des documents.
Reconversion de tous les salariés. Il doit donner des garanties formelles et absolues sur la pérennité des activités de turbines à gaz.
C'est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale.
Et il doit enfin travailler, nous y travaillons, à prévoir une diversification, notamment vers l'aéronautique. L'État est prêt à s'engager. C'est ça, dans notre majorité, notre conception de la politique. Non pas mentir sur le dos des salariés, mais aider les salariés et prévoir l'avenir de l'industrie française.
Merci, monsieur le ministre.
Nicolas Dupont-Aignan, qui risque la sanction.
La parole est à monsieur.
Tiens, petite pause, s'il te plaît. C'est pas la première fois que Bruno Le Maire fait ce rappel sur l'affaire Alstom General Electric en disant la branche qui a été vendue en 2014, c'est pas la même que celle qui a été vendue en 1999, je sais plus, je crois, un truc comme ça. Et vous faites une confusion. Celle qui est en train qui fait l'objet d'un plan social, c'est celle qui a été vendue il y a 20-30 ans et pas celle qui a été vendue sous Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre. Après, vrai ou pas, ça a à chacun de se faire son idée. Alors pourquoi j'ai disparu, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise pour ce qui est du document que montrait Nicolas Dupont-Aignan, c'est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale de montrer des documents de la même manière qu'il est interdit de venir habillé en gilet jaune ou en bleu de travail ou en maillot de foot. C'est le règlement, c'est comme ça. Pourquoi ? C'est le règlement. Que vous dire de plus ? Voilà. On reprend.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères...
Quelles sont les sanctions ? Tu peux avoir une sanction...
À 10 minutes près, les États-Unis lançaient des frappes contre l'Iran.
On peut te retenir une partie de ton indemnité.
Conséquences imprévisibles.
Super Bambi.
La France œuvre à une désescalade, dont acte. Monsieur le ministre, vous le savez, depuis des années, la République islamique...
De montrer quoi que ce soit. Oui, tout à fait, Narman, de montrer quoi que ce soit.
Ces dernières semaines se sont succédées...
Si je viens avec un mug, en soi, je n'ai pas le droit non plus.
Au cœur de la crise...
Si je m'en sers pour montrer...
Jamais les Mollahs n'ont renoncé à l'arme atomique, ni cessé de développer.
Et c'est marrant, c'est comme ça. Les insoumis avaient détourné ce truc-là
en deux jours.
Très vite, s'il te plaît.
Leur stock d'uranium.
Les Insoumis avaient détourné ce truc-là à deux reprises. Enfin, il y a une des deux, je ne sais plus si c'était les Insoumis, mais il y avait un orateur, là, je ne sais pas si c'était les Insoumis, mais un orateur qui parlait avec sur sa fiche, il y avait tout ce qu'il voulait montrer, mais il était en train de lire sa fiche en disant « Monsieur le ministre, nanana », et derrière, il y avait les graphiques qu'il voulait montrer. Donc, il jouait un peu avec les règles. Et l'autre fois où ils se sont un peu joués des règles, c'est il y avait un orateur qui parlait, je crois que c'était Mélenchon qui parlait, enfin, je ne sais plus qui parlait. Et derrière, vous aviez, et c'était sur l'histoire des 5 euros d'APL, et vous aviez les députés Insoumis qui derrière sortaient. Tout ce qu'on pouvait acheter avec 5 euros de course et du coup c'est pas le député qui parlait qui montrait ces trucs là, les députés qui sortaient les trucs les sortaient pas pour s'en servir pour, enfin bon ça jouait un peu au con et voilà c'est rigolo, on reprend, désolé.
Enrichi aura dépassé le plafond de 300 kilos.
Alors oui, la salle, il avait son gilet jaune.
Il a atteint aujourd'hui un taux de 20% au lieu des...
Corbière parlait, Mélenchon sortait les courses, merci.
Si rien n'est fait très vite, l'Iran aura des ogives nucléaires pouvant atteindre l'Europe. L'accord de 2015 est caduque, nous le voyons. Certains, y compris sur ces bancs, renvoient dos à dos Iraniens et Américains. C'est une faute morale et politique. Entre nos alliés américains qui partagent nos valeurs et dont on célébrait il y a 15 jours le débarquement en Normandie et un régime islamiste sanguinaire,
il est dingue.
Le choix est fait.
Enfin, c'est l'Arabie, on sait, mais...
La France doit choisir le camp de la liberté. Depuis 40 ans...
Mais c'est pas ça la question, c'est les Américains qui sont sortis des accords iraniens.
Elle applique la charia, lapide les femmes, pend les homosexuels.
Personne défend l'Iran, c'est juste que...
sponsorise le terrorisme. Sans revenir à la tas du Tracard ou à la rue de Rennes, il y a un an, a été déjoué un méga attentat villemain dans un silence troublant. Vous savez mon attachement à ces questions. Chaque année, ce régime négationniste organise un concours de caricatures sur la Shoah et déclare ouvertement vouloir anéantir l'État d'Israël. Aujourd'hui, les Iraniens profitent de nos divisions. Certes, nous essayons d'éviter la guerre, mais pour paraphraser Churchill, nous risquons d'avoir la bombe, la guerre et le déshonneur. Un seul objectif, l'Iran ne doit pas être atomique. Monsieur le ministre, pourquoi aujourd'hui est-ce l'Iran qui fait pression sur l'Europe et non l'inverse ?
Merci, cher
question de Meir Habib. Meir Habib, il est député des Français établis hors de France, notamment sur la circonscription qui recouvre Israël. Ce qui n'est pas anodin vu la proximité entre Israël et Iran.
L'accord de Vienne, et elle entend le rester.
L'accord de Vienne, c'est l'accord sur le nucléaire iranien.
La France est signataire de l'accord de Vienne parce que l'on appelle par ailleurs, comme vous le savez, JCPOA, parce que cet accord est la meilleure garantie de stabilité de toute la région, pour tous les pays, y compris un pays qui vous est particulièrement...
Sans défendre l'Iran, quoi qu'on pense de l'Iran, c'est les États-Unis qui sont sortis de cet accord. Et l'Iran, selon tous les observateurs dépêchés sur place, respectait cet accord. Donc,
que l'Iran respecte ses engagements. Ce n'est pas une raison pour ne pas alerter, comme j'ai fait tout à l'heure, sur les risques que représenterait une initiative iranienne de remettre en cause l'accord de Vienne. Parce qu'à ce moment-là, on rentrerait dans une procédure de règlement des différends plus du Conseil de sécurité qui serait négatif pour la stabilité de l'ensemble de la région. Et nous pensons que les alertes que nous mettons en avant à l'égard des Iraniens, le dialogue que nous avons avec eux, peut leur permettre de faire prendre conscience de ces nécessités.
Et ça sort d'un accord et après ils reprochent à l'Iran de ne pas respecter cet accord. C'est exactement ça, Gultix.
Et on en a déjà parlé, que nous n'étions pas favorables à l'action menée par les États-Unis de retrait de la signature de l'accord de Vienne.
Il n'est pas chez La République En Marche, Meir Habib, il est à l'UDI.
L'accord préserve la sécurité dans la zone et il faut le poursuivre sous réserve que l'AIEA puisse contrôler régulièrement que cet accord est respecté, c'est le cas. Sous réserve aussi que les Européens et l'ensemble des signataires de l'accord, c'est-à-dire à la fois...
L'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique.
France, mais aussi la Chine et la Russie, sous réserve que ces pays-là puissent mettre en œuvre un dispositif financier permettant à l'Iran de bénéficier des retombées économiques de l'accord. Voilà quelle est la donne pour nous. Notre politique n'a pas changé et nous appelons au dialogue et à la désescalade.
Merci, monsieur le ministre.
Et alors, Meir Habib, je ne l'ai pas dit, mais il est également vice-président de la Commission des Affaires étrangères, vice-président des groupes d'amitié France-Israël, notamment, France-Israël, France-Égypte, France-Turquie.
Je souhaiterais aujourd'hui appeler votre attention sur la coopération en Méditerranée.
Vice-président du groupe d'études sur l'antisémitisme.
Hier se tenait à Marseille le sommet des deux rives pour relancer la coopération entre 10 pays de la Méditerranée. 14 projets ont été retenus pour soutenir la jeunesse et l'innovation, valoriser notre patrimoine et surtout construire ensemble une Méditerranée durable sur le plan écologique et sécuritaire. Le président de la République a défendu sur place à Marseille hier la nécessité de construire une compréhension commune et a annoncé revenir d'ici 6 mois pour vérifier l'avancée de ces projets. Néanmoins, certains d'entre eux ne peuvent pas attendre, Monsieur le Ministre. La préservation des ressources de notre mer par la récupération et le recyclage des plastiques doit être mise en place le plus tôt possible pour éviter que la faune maritime ne soit mise en péril par ces déchets, ce qui pénaliserait nos pêcheurs et nos sources d'alimentation. La coopération en Méditerranée était au point mort depuis plusieurs années et malgré les propositions fort innovantes de la société civile pendant ces derniers mois, il faut que les institutions et les bailleurs de fonds poursuivent leur travail. Je salue donc toutes les initiatives prises et notamment l'organisation de ce sommet à Marseille. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur l'implication concrète du gouvernement quant au suivi de ces projets et la garantie de leur mise en place ? Deuxièmement, dans quelle mesure la France va-t-elle jouer un rôle leader dans cette nouvelle coopération afin que la Méditerranée, riche d'une histoire millénaire, puisse à nouveau irradier vers ses multiples ailleurs ? Je vous remercie.
Question de Monica Michel, députée des Bouches-du-Rhône, députée de La République En Marche, ancienne représentante de commerce, vice-présidente du groupe d'études sur l'économie maritime, sur le sommet de Marseille.
À Marseille, le sommet des deux rives.
Auquel était présent le sommet des deux rives, auquel était présent Emmanuel Macron.
Pris par le président de la République à Tunis au début de l'année 2018. Il a lui-même tenu à...
Repose la question en fin de stream, si tu veux, Jabiro, je te réponds.
Il y a eu dans le passé beaucoup d'initiatives visant à la coopération en Méditerranée. Le processus de Barcelone, l'Union pour la Méditerranée. Mais... La nouveauté de ce sommet...
Alors, Monica Michel, elle n'a pas de page Wikipédia, et du coup, les bénévoles m'ont mis sur les fiches. Pas de page Wikipédia égale vie nulle.
Certes, il y avait la réunion des ministres de ce qu'on appelle le 5+5, les 5 pays du nord de l'Afrique et les 5 pays du sud de l'Europe, qui ont l'habitude de travailler ensemble, mais la société civile a lancé à Tunis, à la mi-juin, ce que l'on appelle l'appel des 100, qui énumérait 260 projets dans lesquels nous avons pu sélectionner 14 projets immédiats et demandait aux responsables politiques, au gouvernement, de s'engager sur ces orientations, ce qui a été fait hier par un texte que nous avons signé à 10 et qu'a pu valider les représentants de la société civile à Marseille. Ces engagements, ils sont nombreux, ils sont variés, ils vont à la fois d'engagement éducatif, de la protection des rivages, de la ville durable, du traitement des déchets, de l'initiative culturelle. Ces 14 projets devront faire une mise en œuvre très concrète pour aboutir dans 6 mois à un nouveau sommet qui devra valider l'état d'avancement de ces projets. Et la France a été chargée d'assurer, par mon intermédiaire, le suivi de l'ensemble de ces dispositifs. Et nous serons, je suis sûr, au rendez-vous de ces engagements.
Merci. Alors, effectivement, la réforme constitutionnelle est reportée énigmatique. Et encore qu'on verra, c'est peut-être juste
cette question s'adresse à la ministre du Travail.
De la politique. Par contre, la réforme des QAG entrera bien, c'est une réforme du règlement de l'Assemblée nationale, et elle entrera bien en vigueur le 1er septembre prochain.
Que leur force de travail pour vivre. Vous avez déjà crucifié le code du travail et favorisé les CDD et la précarité, notamment avec vos mal nommés CDI de projet. Madame Prénicaud, le crime serait presque parfait.
Madame Prénicaud.
Après avoir fait exploser le nombre de contrats précaires, je rappelle que 80% des emplois que vous vous vantez d'avoir créés grâce à votre politique sont des CDD. Voilà maintenant que vous reniez leurs droits en durcissant leur accès au chômage indemnisé. Tout cela pour 3,4 milliards d'euros d'économies d'ici 2021, soit très exactement le montant des cadeaux fiscaux annuels accordés aux plus riches grâce à la suppression de l'ISF. Cette comparaison dit tout de votre politique, jamais trop généreuse avec les riches, jamais trop dure envers les défavorisés. Je rappelle pourtant que la moitié seulement des chômeurs sont indemnisés et que la moitié des chômeurs indemnisés touchent moins de 850 euros par mois. Il y a dans cette situation aucun plaisir, aucun confort, simplement une humiliation de tous les jours, jusqu'à la mort, Madame la Ministre, car selon l'association Solidarité Nouvelle, le chômage fausse chaque année entre 10 et 14 000 de nos compatriotes. Ces vies valent mieux que vos statistiques, car depuis des mois, vous vous glorifiez de la baisse des catégories A, mais c'est au prix de l'alourdissement des B et C. C'est donc dans ces dernières catégories...
Ce sont les différentes catégories de chômage.
Les chômeurs des registres. Rayer des noms à Pôle emploi, ce n'est pas enrayer le chômage. Après avoir fait croire qu'il suffisait à un chômeur de traverser la rue pour trouver un travail, vous voulez faire croire qu'il suffit à un précaire de traverser la rue pour accéder à un emploi en CDI. Le durcissement de l'accès à l'indemnité, c'est 600 000 personnes privées d'indemnité. L'exclusion des permittents, ce serait 830 000 privés d'indemnité. C'est l'explosion des travailleurs pauvres dans le pays. Est-ce cela auquel vous voulez accoler votre nom? Est-ce que vous voulez accroître la pauvreté en France?
Oh, il n'est pas en train de hurler, Éric Coquerel, il fait valoir ses positions. Et c'est bien normal, Éric Coquerel, qui interroge Muriel Pénicaud sur la réforme du travail et qui dit « Vous avez sorti les gens de la catégorie A, à savoir la première catégorie de chômeurs, celle où vous êtes le chômage max, quoi, chômeur à donf. »
Profondément.
Mais ça ne...
Vous ne vous êtes jamais réjoui que depuis 2 ans... on soit passé de 9,7 à 8,7% de taux de chômage. C'est 200 000 de nos concitoyens qui ont retrouvé...
Muriel, ce que Eric te dit, c'est que diminuer le chômage, c'est pas forcément augmenter l'emploi. Et pour le coup, les économistes sont d'accord.
Pourquoi vous vous réjouissez pas que 26 millions d'actifs vont avoir droit...
Allez, hop, 1, 2, 3. Raté, ça marche pas bien.
Marasineanu, ministre...
des femmes pour porter ce stéréotype.
On a eu un léger bug, du coup on revient. On reste poli s'il vous plaît. Vous avez le droit d'être pas d'accord, mais on reste poli.
Plus loin sur la baisse du chômage, il ne s'agit de radier personne. Il s'agit d'aider 200, 250 000 de nos citoyens à retrouver un emploi avec un accompagnement comme on n'a jamais fait dans le pays, avec des moyens à Pôle emploi, des moyens qui sont inédits. Et avec une valeur clé, c'est que le travail paye toujours plus que le chômage. Alors si vous ne pensez pas que le travail est...
Ça, c'est quasiment tout le temps le cas.
Si vous ne voulez pas faire reculer le chômage, continuez. Nous, on continuera et on réussira.
Merci, Lord Sréon. Standing ovation de la majorité pour Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Et La République En Marche qui est saoulée. Alors, qui a crié le plus fort? Bonne question, Joris.
S'il vous plaît.
Joris Le GC. Ah bah, je vois que Joris Le GC, t'as changé de pseudo.
Un peu de silence.
Et vous voyez la France Insoumise qui décide de quitter l'Assemblée Nationale, scandalisée par cette standing ovation.
S'il vous plaît.
Ce qui fait ricaner dans la majorité.
S'il vous plaît, on écoute si vous voulez bien, monsieur Gaël Le Boeck.
C'est un prétexte parce qu'il fait chaud, c'est grave.
Ma question s'adresse à la ministre des Sports. Madame la ministre, je voudrais tout d'abord dire ma fierté d'appartenir au tout premier groupe majoritaire de l'Assemblée nationale qui soit paritaire. Il résulte d'une volonté politique, celle du président de la République. Les stéréotypes ont la vie dure et notre majorité doit veiller à renforcer le rôle des femmes dans notre société. Permettez-moi de saluer au passage la nomination de la présidence du Haut Conseil à l'égalité de Brigitte Grézy, qui a travaillé de longues années à la lutte contre les stéréotypes.
C'est étrange la démocratie en action, mais c'est normal, les divergences d'avis. C'est ça la démocratie.
Il y a près de 10 ans. Le sport...
Quel spectacle pour la délégation égyptienne.
Des femmes. Trop nombreux préjugés existent.
Pas très respectueux pour les parlementaires de partir. Moi, c'est fréquent. Surtout, en général, ils rentrent très peu de temps après.
Il y a quelques mois, j'ai soulevé la question de la parité s'agissant des conseillers techniques sportifs. Certains m'ont indiqué qu'il y avait beaucoup de déplacements, que c'était difficile. Quand arrêterons-nous cette culture du sexisme, du mâle dominant? Il est primordial que les hommes s'engagent à promouvoir le rôle des rôles modèles féminins. Je serai la semaine prochaine, en particulier en Bretagne, à l'invitation de Nicole Le Peih et dans toute la France, à l'occasion des 20 ans de la délégation des droits des femmes pour porter ce message.
Je vous invite à suivre les débats en Égypte, ça se finit à coup de mandat dans la gueule, ils vont être choqués.
Alors que notre pays accueille la Coupe du Monde de football, à l'occasion des fêtes de fin d'année scolaire, les petits garçons qui investissent les cages de but aspirent aussi à être aussi forts que Sarah Bouhadi. Ces jours-ci, nos enfants, filles comme garçons, sont Amandine Henry, Amel Majri, Wendy Renard ou encore Eugénie Le Sommer. Alors,
je pars en tournée.
Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous engager pour saisir la balle au bon et poursuivre la promotion des rôles modèles féminins dans le sport, notamment au travers des médias et en particulier des médias publics? La question, enfin, de la rémunération des femmes doit trouver une réponse pragmatique et digne. Pourquoi ne pas s'inspirer de ce que notre majorité a mis en place dans la loi travail, à savoir un index sur l'égalité, comme cela se fait depuis quelques semaines dans les entreprises? Le sport féminin est
Merci,
en train de gagner ses lettres de noblesse.
Le
allez les femmes, allez les bleus.
La parole est à madame...
T'as oublié ta conclusion là, Gaëlle. Gaëlle Le Bouec, député de La République En Marche, entrepreneur de formation, membre du groupe de travail sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 et membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il est au croisement de ces deux sujets.
De l'égalité homme-femme. Parce qu'on a osé, parce qu'on a pris le risque de rendre visible, en clair, le foot au féminin, on a rendu...
Il était à deux doigts de partir sur un popopopo.
On leur a permis de faire entendre leur voix. Et maintenant, elles sont entrées dans la place, comme on dit. Des barrières sont en train de tomber. Les Français sont fiers de leur équipe féminine. Les représentations évoluent.
Effectivement, c'est cool qu'elles avancent comme ça.
On ne s'y attendait pas.
Les Bleus.
Mais ça me parlait juste, juste et normal. La pratique sportive des femmes doit être encouragée. Je m'y emploie. Les femmes doivent aussi pouvoir accéder plus facilement à des postes à responsabilité dans les associations.
Prochain match vendredi à 21h d'ailleurs.
Je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, une seule femme est présidente dans toutes les fédérations olympiques.
Et je rappelle que la seule présidente de groupe, c'est Valérie Rabault, des socialistes.
Les clubs doivent tout mettre en œuvre pour mieux accueillir les femmes.
Je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron avait promis que sa première ministre serait une première ministre.
Dans les clubs, à 50% de femmes et d'hommes, il faut aussi développer la mixité hommes-femmes dès le plus jeune âge et l'inclusion des personnes handicapées. Je sais que le mouvement sportif...
C'est grâce à La République En Marche, le foot féminin. Tout à fait, Fayard Flema.
Il faut casser aussi le plafond de verre des 20% de médiatisation du sport féminin pour permettre notamment la structuration du sport professionnel auquel vous avez fait allusion. Je suis heureuse de saluer le premier sponsor qui vient de s'engager avec la D1 féminine en un partenariat de naming. Et nous y travaillons avec le CSA et l'opération sport au féminin toujours. Nous devons trouver aussi pour les jeunes mamans des conditions propices à la reprise de l'activité sportive. Nous travaillons pour cela avec la Caisse nationale d'allocations familiales et l'Observatoire de la parentalité en entreprise.
Le principal sponsor du Premier ministre. C'est vrai, pardon, Pilo Derman.
La garde d'enfants à proximité des équipements sportifs ou en leur sein et également pour la pratique de l'activité sportive en famille.
Merci, madame la ministre.
Est-ce qu'il y a une mixité au gouvernement? Oui, je crois que le gouvernement.
Merci, monsieur le président.
Est à 50-50.
Ma question s'adresse
Tout le monde fait gaffe à ce genre de choses aujourd'hui. Bien.
Madame la ministre, la France organise actuellement la Coupe du monde de football féminin. Et je suis très heureuse en tant que valenciennoise que des matchs se jouent dans notre stade du Hainaut. Elle organisera en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques.
N'oublions pas que les femmes professionnelles gagnent très peu d'argent comparé aux femmes, comparé aux hommes. Tout à fait, super Bambi. C'est vrai dans le sport et en général d'ailleurs.
Il ne faut pas l'oublier, les nombreux clubs amateurs et leurs bénévoles qui font bien sûr notre grande fierté.
Le sport, décidément, c'est la journée de Roxana Maracineau.
La tolérance, le respect, l'honnêteté, l'honneur, le courage, le dépassement de soi.
Le gouvernement est à 50-50, mais tous les principaux portefeuilles sont donnés aux hommes. Effectivement, Gerpos.
Vous le savez, en témoigne les passerelles que vous voulez créer avec l'éducation.
Il n'y a pas de mixité sociale, tout à fait, Pilo Derman.
Comme par exemple la belle génération 2024. Et pourtant, nombre d'habitants de petites communes, communes rurales, peuvent difficilement accéder au sport ou sont très limités dans le choix quant à la discipline. Les jeunes ne peuvent même pouvoir bénéficier du quota horaire prévu pour le PS, par les programmes de l'éducation nationale, comme le savoir nager, si important. J'ai d'ailleurs ici une pensée pour cette maman qui s'est noyée dans ma circonscription il y a quelques jours, en tentant de sauver son petit garçon. Et j'exprime toute ma gratitude aux policiers et pompiers, sans qui ce dernier aurait également perdu la vie. Madame la ministre, nos petites communes manquent d'équipements et d'infrastructures sportives, car elles ne peuvent ni les financer, ni les faire fonctionner. Si nous sommes pleinement conscients qu'il ne
peut C'était proportionnel, il devrait y avoir plus de femmes que d'hommes, c'est vrai.
Sportives dans chaque commune,
52-48, je crois, c'est ça, Carpastec.
La stratégie à adopter. Madame la ministre, la question est donc la suivante. Une réflexion est-elle engagée sur ce sujet par le gouvernement? Celui-ci envisage-t-il des plans d'investissement et de rattrapage tels que ceux mis en place par certains de
Madame
vos prédécesseurs?
La parole est à Madame Roxana Maracineanu.
Béatrice Descamps, secrétaire générale adjointe de l'UDI, notamment directrice d'école primaire de formation. co-présidente du groupe d'étape sur le handicap et l'inclusion, et également membre du groupe de travail sur les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Avec l'éducation nationale, avec la santé, avec Madame Pénicaud pour la partie professionnelle, et qu'elle répond à un objectif, celui d'augmenter et d'atteindre...
Elle répond à nouveau, effectivement, mais avant, c'était la majorité qui posait la question, et là, cette fois-ci, c'est l'opposition.
Elle est également menée en concertation avec les territoires, avec le mouvement sportif, avec le monde de l'entreprise, dans le cadre de l'Agence nationale du sport. Et nous comptons beaucoup sur ce ministère des Sports, sa déclinaison territoriale, pour mener à bien ces politiques publiques, qui sont à l'intersection de tous les intérêts, mais avec un intérêt de l'État.
Ce qui est cool avec cette Coupe du Monde, c'est qu'on voit qu'en fait, du sport féminin, ça peut ramener des gens devant l'écran.
Et financièrement, les autres se
désengagent. Il suffit qu'on en fasse la promo, quoi.
L'État continuera à être là pour mener une politique publique du sport. À l'école, par exemple, avec Jean-Michel Blanquer, vous l'avez évoqué, ce plan d'aisance aquatique pour lutter contre les noyades, ça concerne tous les territoires. Et ce risque est d'autant plus grand avec la canicule annoncée. Nous avons fait déjà émerger de nouveaux équipements.
C'est les nations qui ramènent les gens devant l'écran.
Des équipements mobiles, des équipements en lien avec la méthode que nous impulsons grâce à un grand programme de formation des éducateurs, des instituteurs et des parents.
Oui, c'est ça, Carpastex. C'est fou. Suffit qu'on puisse te regarder pour qu'on te regarde.
La natation auprès des tout jeunes enfants, mais aussi des personnes âgées. Nous avons aussi le savoir rouler à vélo avec Madame Elisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer.
C'est moins de personnes pour le foot féminin que masculin, c'est qu'il y a bien une raison.
Le plus jeune âge,
oui, mais il ne faut pas confondre le sens de l'éventuelle causalité. Il y a moins d'argent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que le foot féminin, c'est moins intéressant que le foot masculin parce que moins technique, etc. etc. En admettant que ce soit vrai, que ce ne soit pas juste du sexisme. En admettant.
La possible installation de douches et de
si vous mettez moins d'argent pour recruter des athlètes, pour former des athlètes, etc., forcément vous avez des athlètes qui sont moins techniques derrière.
Dans le cadre de
vous voyez, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Il faut juste voir dans quel sens va la corrélation, enfin, dans quel sens fonctionne le mécanisme. Quoi. Et je dis, en admettant que ce soit vrai que le foot féminin soit moins technique que le foot masculin, ce dont je ne suis pas convaincu, mais de toute façon, je ne connais rien au foot.
Je m'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Je souhaite appeler à nouveau votre attention. Sur les difficultés,
le foot, ça permet de donner beaucoup d'argent à des gens qui ont besoin, ça je suis pas sûr par contre. Sauf si c'était ironique, let's go baby 6 millions. Mais...
commune rurale de 532 habitants. La MAT est détenue par le groupe Trève, un équipementier automobile implanté dans 17 pays et réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 600
millions. Tout à fait, Carpastec. Il y a moins de gens car c'est moins populaire, mais si on fait un peu de pub, ça devient populaire, donc plus de gens regardent, donc il y a plus de moyens, donc le niveau augmente.
France a investi 55
le serpent peut se mordre la queue dans l'autre sens, effectivement.
Trève pour lui permettre de redresser sa situation financière. Cette participation à la hauteur de 43% du capital du groupe permet à l'État de disposer d'une place au conseil d'administration.
Bon, on se concentre, on écoute.
Donne un rôle stratégique. En un peu plus de 15 ans, les effectifs sont passés, hélas, de 500 salariés à 97. Le dernier plan social date de juin 2017.
Ah, c'est intéressant, ça, Charles
Maurice. La mobilisation de l'ensemble du personnel a permis aux salariés
d'ailleurs
d'obtenir quelques concessions de la part du groupe, mais les termes de l'accord n'ont pas tous été respectés. Depuis des années, le chiffre d'affaires ne cesse de diminuer. Les nouveaux marchés sont octroyés aux autres usines du groupe. Les 97 salariés sont confrontés à des mesures de chômage partiel, ce qui se ressent sur leur fiche de paye et leur morale. Les carnets de commandes arrivent à échéance en 2019-2020. Sans repreneur, cette seule entreprise locale fermera et 97 salariés se retrouveront au chômage. J'ai attiré votre attention sur cette situation dès mon élection en juin 2017. Deux réunions ont été organisées à Bercy en 2018. Malheureusement, à ce jour, aucune solution n'a été apportée. En mars 2019, lors d'une question posée par ma collègue Anne-Laure Cattelot concernant la situation de l'entreprise Arceval, vous avez précisé « Je me battrai pour chaque emploi industriel menacé ». Alors, monsieur le ministre, face à cette situation, pourriez-vous nous préciser quelles actions concrètes vous comptez mettre en œuvre afin de parvenir à une solution ?
La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre.
Aude Bonneau-Vendrome, conseillère municipale de Laon.
Merci, Monsieur le Président.
Ancienne de l'UDI qui avait été exclue.
Madame la députée Bonneau-Vendrome.
Qui du coup a rejoint La République en Marche.
Située à Chaours, c'est spécialisée dans la fabrication d'équipements en mousse polyuréthane.
Et qui pose une question sur la situation de l'entreprise Arceval.
Elle appartient à un groupe qui lui-même affronte des transformations difficiles, tant il est vrai qu'il a été à plusieurs reprises au bord de la faillite. Et c'est pour ça que dès 2009, le Fonds de modernisation des équipementiers automobiles s'était intéressé à cette entreprise qui est une entreprise de taille intermédiaire, qui est une entreprise familiale et qui illustre justement ce tissu d'entreprise que nous souhaitons accompagner. Comme vous le soulignez, l'État a été amené il y a une dizaine d'années donc à accompagner cette entreprise et également à suivre la situation de MAT dont les marchés historiques, les véhicules utilitaires et les petits véhicules urbains connaissent une baisse régulière en France qui explique la sous-activité du site. De surcroît, un conflit social en 2017 a conduit à interrompre les livraisons aux clients et a amené à l'arrêt des chaînes d'assemblage de véhicules. Et cela rend très difficile aujourd'hui la recherche et l'obtention par le site de nouvelles commandes. Face à cette situation, comme vous le soulignez, le gouvernement est mobilisé. Mobilisé aux côtés de l'entreprise, mobilisé aux côtés des salariés. Et nous poursuivons avec le groupe Trèves la recherche d'activités pour le site, en le faisant bénéficier le temps de cette recherche de mesures de chômage partiel de façon à permettre au temps d'apporter des repreneurs. Nous sommes aux côtés du groupe Trèves parce que lui aussi est mobilisé dans cette transformation. C'est la contrepartie de cette aide que nous apportons au groupe avec un engagement entier pour trouver ces repreneurs. Mais nous l'avons dit, le marché de l'automobile connaît sur certains aspects des restructurations importantes. Nous devons accompagner cette transition qui est à la fois écologique et sociale. Nous sommes mobilisés aux côtés des salariés et demain, le préfet réunira l'ensemble des parties prenantes pour à nouveau faire le point sur ce dossier et ouvrir des perspectives.
Merci,
je vous remercie.
Madame la ministre.
T'es sûr que c'est pas parce qu'elles sont fortes que c'est populaire le foot féminin aux États-Unis.
Merci, bah, monsieur le
président. À nouveau, c'est un truc qui se mord là que elles sont populaires, donc du coup, il y a plein de gens qui en font, donc du coup, elles sont fortes.
La direction des finances publiques est l'une
des plus meilleures athlètes. Malgré et du coup, elles sont fortes, et donc du coup, c'est populaire. Et
de ses missions et d'une meilleure accessibilité des services publics à la population, le gouvernement souhaite un nouveau maillage territorial de cette direction. Jeudi dernier, donc, une réunion de concertation avec les élus locaux se tenait en sous-préfecture de Saint-Quentin pour discuter de l'avenir de l'administration fiscale dans notre département. Sur le papier, il est annoncé 37 points de contact contre 17 actuellement. Nous devrions nous réjouir. Mais cette phrase, je la laisse au conditionnel. Passé l'analyse de la nouvelle cartographie, nous constatons que les trésoreries, les services des impôts, bref, l'ensemble des implantations de l'administration fiscale sont concernées par cette géographie revisitée, qui prévoit certes des maintiens, mais surtout beaucoup de fermetures ou de centralisation des missions et leur remplacement par des accueils de proximité.
Un peu salaud de la part de la régie.
Simple ancrage provisoire dans les mairies et sous réserve d'un nombre minimum de rendez-vous. On connaissait le candidat à la présidentielle hologramme, vous inventez le service public hologramme. Monsieur le Premier ministre, derrière le...
Jean-Luc, il n'a rien demandé, il en prend plein la gueule.
Administration, les élus locaux ont davantage le sentiment d'un nouveau repli territorial, notamment dans les territoires fragiles. J'ai donc trois questions. Quelles garanties offrez-vous aux particuliers et aux entreprises quant à la qualité des services qui sont rendus dans les futurs accueils de proximité ? Quelles garanties offrez-vous aux collectivités, d'une part, quant à la qualité du conseil financier apporté par le futur conseiller aux collectivités dont le périmètre d'action couvrira une intercommunalité, et, d'autre part, sur la prise en charge financière du glissement des tâches de la direction des finances publiques vers les communes, notamment les prises de rendez-vous ou la gestion des premiers accueils ? Enfin, quelles garanties offrez-vous aux agents de votre administration qui s'inquiètent du devenir de leur mission et de leur lieu de travail ?
Merci,
comment va se passer la réforme de la fonction publique ? C'est la question que pose Julien Dive, député de l'Aisne, ancien chef de projet WIP au sein de la commission des affaires économiques pour les Républicains.
Vu que les deux grandes, au moins, modernisations que nous avons proposées, vous avez voté contre. Vous avez voté contre la suppression totale de la taxe d'habitation, qui est 35% des contentieux qui se placent dans vos trésoreries.
On sait que Darmanin, il aime bien.
Plus de taxes d'habitation, plus de contentieux. Vous avez voté contre le prélèvement à la source. Peut-être regrettez-vous aujourd'hui, ça s'est bien passé. Et peut-être avons-nous un petit peu plus confiance dans les agents de Bercy que vous pour réaliser cette grande réforme qui manifestement a rendu des services à tous les Français. La déclaration de revenus, mais aussi le paiement. En septembre, monsieur le député, les Français n'auront plus à venir dans les trésoreries, dans les centres des finances publiques pour faire ce dernier tiers qu'on a tous connu sans doute. Parce qu'effectivement, il n'y a plus désormais qu'un prélèvement à la source. Tous les mois, chacun voit qu'il est prélevé lorsqu'il paye l'impôt sur le revenu. Et nous pourrions parler d'autres sujets, comme le paiement en argent liquide dans les trésoreries, qui se fera demain chez les buralistes ou chez la Poste. En revanche, oui, nous assurons que le discours du président de la République est de remettre les agents au contact de la population et pas simplement dans les centres des finances publiques qui existent. Je le dis, 1000 trésoreries ont été fermées sous deux quinquennats qui se sont succédés. C'est ça la vérité des choses. Nous en remettons dans votre département 17. Et pour que la presse locale et vos élus locaux soient parfaitement au courant, nous allons faire la revue de détail. Pinon, Bourrieux, Coucy-le-Château, Presles, Cuffy, Aulnois, Crécy-sur-Serre, Saint-Herne, Rosny-sur-Serre, Mézières-sur-Oise, Bélicourt, La Capelle, Buire, Craonne, Olchy-le-Château, Neuilly-Saint-Front et Moindelaine.
Ah, j'en ai raté
Vous savez, monsieur le député, indépendamment des 17 points de contact supplémentaires, la vérité, c'est que dans votre département, il n'y a qu'une seule permanence en mairie qui est mise en place par les DGFIP. C'est moi qui l'ai mise en place à Saint-Simon, dans votre circonscription, et aucune dans les maisons de services publics. À ma connaissance, vous n'êtes pas encore ministre des Comptes publics, monsieur le député.
Merci, monsieur le ministre.
Gérald Darmanin qui clash, Julien Dive.
Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse...
Laissez-moi faire mon boulot.
Ministre du Travail. Madame la ministre, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a su redonner un élan indispensable à la formation par la voie de l'apprentissage. Les entreprises ont été déchargées des formalités d'enregistrement et de financement qui seront confiées dès le 1er janvier 2020.
C'est possible qu'il ait eu la réponse, la question...
Les apprentis voient également leur embauche simplifiée. L'entrée en apprentissage...
La question avant l'éducation, oui. L'année,
la durée minimale des contrats est abaissée...
Ou alors, ces collabs sont très forts.
...possible jusqu'à 29 ans. La création des CFA est elle aussi facilitée. L'ensemble de ces mesures renforce l'engouement pour l'apprentissage, comme en atteste l'augmentation significative du nombre de contrats sur la période 2018-2019, plus 7,7% par rapport à la période précédente. Les CFA, les artisans et le réseau des chambres des métiers...
CFA, c'est sorte de formation des apprentis.
...se réjouissent de ce mouvement qui tend à s'amplifier alors que les nouvelles modalités de fonctionnement doivent entrer pleinement en vigueur au 1er janvier 2020. Toutefois, nous entrons dans la délicate période de transition qui semble soulever quelques interrogations. En effet... Près de 75 000 nouveaux contrats devraient être signés à la rentrée 2019 et se pose d'ores et déjà la question des modalités de leur financement. En effet, il semble en effet qu'ils ne puissent pas encore bénéficier des coûts forfaitaires, dits coûts contrats, mis en place par les branches professionnelles à compter du 1er janvier 2020 prochain. Dès lors, s'appliqueraient les seuls coûts préfectoraux, lesquels ne seront plus complétés par les abondements des régions dès la fin de cette année. De nombreux centres de formation des apprentis pourraient se trouver en difficulté pour équilibrer leur budget. Madame la ministre, face à ces inquiétudes, pouvez-vous nous préciser les intentions du gouvernement quant au calendrier de mise en œuvre de la nouvelle mécanique de financement de l'apprentissage et comment la bascule entre la rentrée scolaire 2019 et l'application des nouveaux contrats en janvier 2020 pourrait-elle s'effectuer sans mettre à mal la belle dynamique de l'apprentissage en France ?
Stéphane Baudu, suppléant de Marc Fesneau, qui l'a remplacé lorsque Marc Fesneau a rejoint le gouvernement en novembre 2018, qui pose une question sur l'apprentissage.
D'abord, merci d'avoir souligné qu'effectivement, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a libéré de nombreux freins et qu'on constate aujourd'hui une très belle dynamique de l'apprentissage, plus 7,7% d'apprentis l'année dernière, une dynamique encore plus forte depuis le début d'année. Vous m'interrogez plus précisément sur l'année de transition et notamment... du point de vue des chambres de métiers qui représentent un tiers des apprentis en France et donc qui sont essentiels dans le dispositif. D'abord, je me réjouis de la demande des chambres des métiers. J'y vois un bel hommage puisqu'elles demandent aujourd'hui qu'on accélère la mise en œuvre de la réforme. Après, comme tous ceux en période de transition, avoir eu quelques craintes, aujourd'hui ils souhaiteraient qu'on puisse appliquer au 1er septembre ce que la loi a prévu au 1er janvier de l'année prochaine. C'est assez rare que des acteurs en pleine transformation demandent une accélération de réforme pour ne pas le souligner. Ça montre qu'ils ont compris que le système serait plus simple, plus rapide, plus avantageux, et je m'en réjouis. Alors, ceci dit, quel est le sujet ? Deux choses. La première,
c'est
que les chambres de métiers vont pouvoir, dès le mois de septembre, dès cette année, bénéficier du nouveau système de financement, c'est-à-dire les coûts contrats dont vous parlez, pour
on voit que j'ai les yeux rouges à cause du pollen ou pas ?
Au-delà de la convention régionale avec les conseils régionaux. C'est-à-dire tout nouveau CFA, toute nouvelle section ou tout nouveau contrat au-delà du montant qui avait été financé par la région. Ensuite, la question qui se pose et qui justifie l'inquiétude légitime des chambres de métiers sur lesquelles nous avons à travailler, c'est que les régions, en 2019, bénéficient du plus haut niveau de taxe d'apprentissage qui n'a jamais existé puisque c'est une ressource dynamique.
Et néanmoins, on voit que les QLG t'intéressent. Bon, j'avoue que les questions chou pas, je suis pas hyper.
De diminuer les ressources.
Pas hyper emballé, très franchement.
L'année prochaine, ça n'est plus de leur charge. Pourtant, cette année, ils auront le montant entier et même supérieur aux années précédentes. Nous allons revoir ça avec les régions et les CFA. Il n'est pas question, évidemment.
CFA, c'est centre de formation des apprentis, hein, toujours.
Une réforme qui marche. Les chambres des métiers, les jeunes et les entreprises attendent que les régions aient le sens de l'intérêt général sur ce sujet aussi.
Merci, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas compris un truc, si vous voulez qu'on explique des trucs. N'hésitez pas, on peut. C'est l'occasion. Nous avons, on va se dire, les 20-30 minutes ensemble où on peut discuter de tout ça si vous le souhaitez. Si seulement il y avait un droit de réponse, nous disent Ramsfire, il y aura un droit de réponse à partir de septembre prochain. La séance est suspendue, rendez-vous à la buvette. Non. Là, ils vont voter. Qu'est-ce qu'ils ont voté? Merde, je l'ai regardé hier et j'ai oublié. Ils vont voter un truc.
La collectivité européenne d'Alsace.
Voilà, il y a ça qui était en discussion. J'ai pas compris pourquoi ma tête au milieu de l'écran, parce que la régie s'ennuie et que du coup, voilà, que quand je me tiens droit, je lui ai remarqué que quand je me tenais droit, je sortais.
Comme tous les streamers d'Acropolis sont tout le temps avachis, en général, je baisse la caméra, tu vois, donc je suis pas habitué à ce que tu sois droit, tu vois.
Merci Acropolien pour ce 17e mois de soutien, merci à toi, faites comme Acropolien et n'hésitez pas à claquer votre sub ou vos primes. Un droit de réponse comme Francky Vincent, le restaurant, un rêve à réaliser. Effectivement. Mais oui, effectivement, il y aura un droit de réponse à partir de septembre prochain. La réforme des QAG, la réforme du règlement de l'Assemblée nationale, de manière générale, est passée et elle contient notamment une réforme du format des QAG. Ça prendra la forme d'une séance, a priori les mardis, une séance avec 30 questions, je crois.
Oui.
C'est ça, 30 questions pendant une sorte, ça va être long hein, quand même.
C'est un truc and roll, mais bon, après.
Et une seule séance, 30 questions, et a priori, on se dirige vers, c'est pas sûr, mais je suis désolé, j'ai le pollen qui me.
C'est pas grave, François.
On se dirige vers, je crois, 22 questions pour l'opposition, 28 et 8 questions pour la majorité, ce qui devrait être. Permettre moins de questions choupa, on va dire. Est-ce qu'ils auront le droit d'exposer un document dans leur droit de réponse? Je ne crois pas que ça ait été modifié, je ne sais pas. Mais je ne crois pas. La régie des salariés, je vous le confirme. 30 questions, je vous le confirme. Et attendez, j'allais dire un truc.
Oui, je suis salarié, oui.
J'allais dire. Putain. Et oui, et droit de réponse, effectivement. Et donc, quelle forme ça prendra? Ça prendra un temps indéfini entre 0 et 2 minutes pour la question, 2 minutes de réponse et le temps qui reste de. Si vous avez mis 2 minutes pour la question, alors vous avez 0 pour la réponse. Si vous avez mis 30 secondes pour la question, alors il vous reste 1 minute 30 pour votre droit de réponse, etc., etc. 30 questions, ça va être indigeste. On va voir. Les questions au gouvernement sont annulées suite à la canicule. Non, Zulu Warrior, c'est que tu arrives un peu tard parce que les questions au gouvernement viennent de se terminer. Pour les 22 questions, comment ça va être réparti dans l'opposition? J'imagine que ce sera comme aujourd'hui. Tu allais dire un truc, pardon.
Non, vas-y, continue.
J'imagine que ce sera comme aujourd'hui, à savoir au moins une question par groupe et ensuite répartie en fonction de la taille respective des groupes. Mais ça va quand même inclure un changement, parce que du coup, aujourd'hui, c'est une question minimum par séance de questions d'actualité au gouvernement. Et donc, par exemple, Liberté et Territoire, ils ont une question le mardi, une question le mercredi. Ils ne peuvent pas avoir plus d'une question, ils ne sont pas assez pour ça. Mais s'il n'y a plus qu'une seule séance le mardi dans laquelle il y a les 30 questions, et bien du coup, Liberté et Territoire n'aura plus deux questions par semaine, mais une seule question par semaine. Et du coup, vous voyez, ça a quand même une petite incidence sur le nombre de questions que vous avez. Et donc, du coup, ceux qui risquent d'y gagner pas mal de questions, notamment, c'est évidemment les Républicains, un peu le Parti Socialiste, un peu la France Insoumise, un peu le groupe Gauche Démocrate et Républicaine. Voilà.
Et au bout de 15 minutes, normalement, en fait, il y aura une pause, un entracte, pendant lequel il y aura un combat en 1v1 entre un député et un ministre. Pour,
Effectivement, ça valait le coup que tu te retiennes de parler tout à l'heure. Et les non-inscrits, je pense qu'ils auront une question toutes les X séances, comme aujourd'hui, je pense, à vérifier. Est-ce que c'est La République En Marche qui a fait passer cette réforme? C'est l'Assemblée nationale qui est majoritairement La République En Marche, oui, donc oui et non, c'est voilà. Combien de questions en tout? 30 par semaine, 30 par séance, une seule séance, 2-30 questions, mon cher Gultix. Octogone, voilà. La régie, oui, c'est la régie qui parle quand vous entendez la voix un peu bizarre, la régie qui n'est plus.
Oui, bien sûr, c'est moi, tout à fait, François.
Voilà, ça, ce n'est pas Dieu, c'est la régie. À quoi une question de notre Jean Lassalle national. Bah, y en a une de Jean Lassalle. Sa dernière question, c'était lorsqu'il avait porté un fameux gilet jaune. Il y a quoi, 3 mois, 4 mois, un truc comme ça. Jean Lassalle. Mais Jean Lassalle, il est non inscrit comme Nicolas Dupont-Aignan. Et donc, du coup, ils n'ont droit qu'aux questions des non inscrits qui sont une fois toutes les 8 séances à peu près. Et donc, voilà. Donc, le nombre de questions ne change pas ni leur durée. C'est juste une séparation de la question divisée en deux. Effectivement, Gultix. Effectivement. Elle vient d'où, Muriel Pénicaud ? On va aller voir. Hein. Vous savez, je ne suis pas beaucoup plus savant que vous. Hein. J'utilise Wikipédia quand je ne sais pas.
Il y a des fiches pour l'aider.
Et j'ai en plus effectivement les fiches des bénévoles qui sont en partie basées sur Wikipédia et sur ce qu'on peut trouver sur d'autres sites comme celui de l'Assemblée nationale ou les sites de Regard Citoyen notamment par exemple. Et j'en profite pour remercier les 3 bénévoles qui m'ont aidé à préparer l'émission d'aujourd'hui, à savoir Tristenza, Delphine et Sainte le Tyran. Merci à vous 3 pour cette aide précieuse. Et donc Muriel Pénicaud, née en 55 à Versailles, dirigeante d'entreprise, aux fonctionnaires et femmes politiques françaises, ancienne directrice générale adjointe de Dassault Systèmes, directrice générale des ressources humaines de Danone. Elle a participé à la création de Business France. Vous vous souvenez qu'il y avait eu une polémique sur les cocktails, sur les réceptions de Business France, polémique au centre de laquelle Madame Pénicaud était directrice générale jusqu'en 2017 de Business France. Elle a siégé dans différents conseils d'administration d'autres grandes entreprises, notamment Orange, la SNCF, puis Aéroport de Paris, et ministre du Travail depuis le 17 mai 2017. Voilà Muriel Pénicaud. Est-ce qu'ils perdent leur indemnité en quittant l'Assemblée ? Alors, qu'est-ce que tu entends par quitter l'Assemblée ? Tu dis Mélenchon, donc je pense que tu parles du fait de quitter la séance. La réponse est non, ils ne perdent pas leur indemnité.
Ils perdent que la crédibilité.
Ils perdent éventuellement leur crédibilité, effectivement, et éventuellement le bénéfice de l'aération de l'Assemblée nationale, je ne sais pas. Mais non, ils ne perdent pas leur indemnité. Ils peuvent se voir sanctionner et retirer une partie de leur indemnité s'ils ne respectent pas le règlement de l'Assemblée nationale. Donc, par exemple, s'ils coupent trop souvent la parole, s'ils portent des vêtements qu'ils n'ont pas le droit de porter, s'ils font trop usage de supports qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, par exemple des graphiques, ce genre de trucs, le président de la séance peut demander une inscription au procès verbal, ce qui entraîne le retrait de, je crois, un tiers de leur indemnité, il me semble, à vérifier, pour le mois, ce qui représente une sanction d'environ 2000 euros et des poussières, 2500 euros, un truc comme ça. Pour le mois. Mais en revanche, alors, et par contre, s'ils quittent l'Assemblée, c'est-à-dire s'ils démissionnent de leur mandat de député, alors oui, là, évidemment, ils perdent leur indemnité et ils ne sont pas payés à vie du tout. C'est quand déjà le prochain Apéropolis ? Le prochain Apéropolis, c'est le 12 juillet. Le 12 juillet, nous organisons un Apéropolis à Paris, ainsi qu'une rencontre avec différents députés et une visite de l'Assemblée nationale. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est sur le Discord. Il y a une cinquantaine de places, je crois. Le lien est sur le Discord et ça vous permettra de rencontrer les quelques députés qui voudront bien nous voir et d'aller visiter l'Assemblée nationale. Est-ce que Ruffin a donné... attendez, c'était quoi ? La question a disparu. Où es-tu ? Est-ce que Ruffin a diminué son salaire comme il l'avait dit s'il allait être élu ? Bien, écoute, on t'a répondu dans le chat. Moi, j'avais pas la réponse, mais apparemment, Ruffin se paye au SMIC et le reste va à des assos caritatives. Effectivement, l'argent que vous récupérez, vous en faites ce que vous voulez après. Hein. Enfin, ce que vous voulez. Dans le cadre de la loi, bien évidemment, mais voilà. Est-ce qu'on pourrait donner l'argent de ces sanctions à des assos ou des gens qui sont dans le besoin ? C'est pas ce que fait l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça reste dans les caisses de l'Assemblée nationale, Gerceval.
Tout l'argent des sanctions va à Emmanuel Macron, évidemment.
Et n'hésitez pas, les bêtises de la régie. Ça commencera à quelle heure l'émission ? Quelle émission, Oufu ?
Il n'y aura pas d'émission d'Apéropolis. Hein. On ne va pas streamer en direct, nous, en train de boire des coups, parce que on risquera des problèmes. Quoi.
Ce serait un peu indigne. Quelle indignité. Non, mais par contre, on va peut-être effectivement filmer cette rencontre faire un mini-documentaire. Ou, voilà.
De toute façon, il y aura un reportage, en fait.
Voilà,
fait par
LC. Mais ce ne sera pas une émission.
Pays. LCPI, je ne sais plus qui c'est.
C'est quoi ?
C'est LCP ou c'est LCI ? C'est LCP ?
LCP.
Oui, c'est LCP. Bah oui, c'est LCP.
Je pense que c'est LCP.
Parce que je pense que LCI n'aura rien à foutre, mais voilà.
Je pense que, ouais. Ouais, ouais.
Mais oui, c'est LCP oui, qui fera un reportage.
Tout à fait, mais ce n'est pas une émission, c'est plus un reportage que LCP va tourner, etc. etc. Usul a fait un stream bourré l'autre jour, très drôle. Alors, il faut savoir que sur Twitch, il y a
Je fais des streams bourrés à chaque fois.
Alors, bon, évidemment, Usul fait des streams bourrés. Mais il faut savoir que sur Twitch, il y a une étiquette qui dit qu'on ne parle pas des streams des autres. J'aime beaucoup Usul, hein, j'ai aucun problème avec lui. C'est
par qui est droite, mais sinon ça va, il n'y a pas de souci.
Par que, effectivement, c'est un gros droitard, on le sait.
Mais qui s'infiltre chez les gauchistes, évidemment.
Exactement. Mais effectivement, l'étiquette veut qu'on ne parle pas des streams des autres sur les streams des autres. Avec l'argent, ils achètent des croissants et des pains au chocolat à 4 euros. Ah bon ?
Et non, non, énigmatique, c'est pas une. C'est pas du tout une.
De quelle info tu parles ?
Bah si, énigmatique.
Ah bon ?
Bah si.
Je crois qu'ils en ont discuté.
Bah, de toute façon, j'en ai discuté avec Jean la semaine dernière, mercredi dernier, pour les QAG. Donc,
Et puis en plus, ils ont décidé de la liste des invités pendant sur Discord avec, avec les membres de Discord. Macron, il dépense de l'argent des fois où il vit comme Chirac à l'époque. Autant on sait que Hollande achetait des croissants, mais Macron, aucune preuve. J'en sais rien, Samy, j'ai pas la vision sur ses comptes. Maintenant, c'est clair que quand t'as un restaurateur, t'as le président de la République qui vient bouffer dans ton resto, est-ce que tu le fais payer ?
Oui. Je paye deux fois plus.
Tu peux, mais je veux dire. Alors deux fois plus, t'as pas le droit. Parce que ça serait de la discrimination. tu peux, mais je veux dire, bon, c'est pas étonnant qu'il y en ait plein qui offrent. Donc voilà. Maintenant, est-ce que Macron paye ? Il me semble que oui, en plus, parce que je me souviens de photos où
oui,
il était dans un resto de.
Il disait qu'il voulait payer.
Et c'était lui qui avait payé avec sa carte. Donc,
on lui disait non, mais ne payez pas. Il fait si, j'insiste.
Voilà, donc bon.
Bon, certes, c'est à mettre à découvert, mais bon, ouais, ça
coûte. Oui, c'est clair que. Donc je ne sais pas s'il paye à chaque fois, j'ai pas accès au compte en banque du président de la République, j'en suis désolé, je fais ce que je peux pour essayer d'avoir le plus d'infos exclusives pour Acropolis, mais je n'arrive pas à tout avoir. Mais oui, il paye. Hein. Mais mettez-vous dans la tête d'un politique. Si vous pensez que les politiques sont tous pourris, mettez-vous dans la tête d'un élu et dites-vous, bon, si jamais j'essaye de faire jouer mes relations ou de faire jouer de mon mandat électoral, etc., pour j'en sais rien, ne pas payer, pour placer un copain, pour tout ce que vous voulez, qu'est-ce que je risque ? Alors, il y en a qui le font. Il y en a qui sont stupides et qui le font. Il y en a qui... J'ai une petite pensée pour Patrick. Sans dire que Patrick est stupide, hein, bien entendu. Il est passé à travers les mailles du filet pendant très longtemps. Donc, c'est bien la preuve que voilà. Il y en a qui le font. Mais... Mettez-vous dans la tête d'un élu. Si vous faites ça, vous prenez des risques inconsidérés. Pourquoi ? Pour ne pas payer un resto ? Est-ce que ça vaut le coup ? Vraiment ? Il risque rien. C'est faux de dire qu'il risque rien. La justice les juge. Hein. Il y a effectivement des critiques à faire sur la Cour de justice de la République qui est en charge de juger les ministres. Il y a des critiques à faire sur la Haute Cour qui est en charge de juger, entre gros guillemets, le président de la République. Mais tous les autres élus, c'est des justiciables de droit commun comme vous et moi. Tous les autres élus, à part les députés et les sénateurs, les ministres et le président de la République, si vous êtes au conseil régional, vous êtes au même régime que n'importe quel autre justiciable. Donc voilà.
Régime du camp.
Patrick, c'est un ninja. Patrick, c'est effectivement un ninja. Il s'en fout de payer, il fait passer ça en frais professionnels. Après, je veux dire, des gens qui font passer des frais perso en frais professionnels.
Il y en a partout, hein. Enfin, dans toutes les entreprises.
C'est clair.
Des gens qui font.
C'est malheureux, ça n'excuse pas les élus.
Ah non, mais
je veux
sûr.
Dire, il n'y a pas que les élus qui le font.
Mais c'est un dîner. Oui, on est en équipe, entre équipes, on fait un petit dîner. C'est sur l'entreprise, tu vois. Enfin, ça, c'est tout le monde le fait, tu vois. Donc...
D'ailleurs, j'attends le McDo d'Acropolis qui va arriver incessamment sous peu, payé bien évidemment en frais professionnels, vous le savez.
Donc voilà.
Bien évidemment.
Bah, évidemment, après, faut pas en abuser de ce genre de trucs, quoi. Mais...
Ah non, mais de toute façon, ça reste illégal. Je veux dire.
Non, mais genre, c'est illégal, mais je veux dire, c'est ça, c'est qu'en fait, tu te dis, bon, au bout d'un moment, tous mes déplacements, ça considère comme un truc improvisé. Bah non, en fait, mais bon. Après, c'est les gens qui vont vous faire un petit contrôle fiscal derrière qui vont vous juger si
c'est
bien ou pas, mais.
Je tue pas de marque, on s'en fout des marques sur Acropolis. Hein,
oui, il n'y en a pas contrôlé par le CSA.
Tout à fait, on s'en bat les steaks. Chanel Apéropolis, oui. Effectivement, c'est là-dessus qu'on avait discuté. Est-ce qu'il paye les cordons bleus qu'on lui offre, ce cher Emmanuel ? Je ne sais pas. Écoutez, si vous le croisez, offrez-lui un cordon bleu. Et voilà. On parle de la MV Production.
Alors, c'est pas une émission le 12 juillet, hein, on vous le rappelle. Hein, c'est...
En tant qu'ancien comptable, je confirme que cette pratique de passer les frais perso en pro est une coutume. C'est une coutume illégale, mais enfin, tu me confirmeras puisque tu es ancien comptable, Jojo, mais effectivement, il me semble que c'est pas très très légal de faire passer des frais perso en pro.
C'est juste que je ne sais pas dans quelle limite est-ce que tu considères que c'est vraiment des frais professionnels ou...
C'est toujours la même chose, hein. C'est, tu tentes, si ça passe, tant mieux, si ça passe, tant pis. Quoi. C'est à tes risques,
doute,
et périls.
Mais n'essayez pas de tenter, restez...
Moi, j'ai tendance à être, dans mes déclarations d'impôts, etc., à être
honnête.
Non, mais limite exagérément obséquieux. Pour pas insulter l'avenir, en fait, tu vois, pour pas prendre le risque d'être.
Tu te rajoutes même des frais, des trucs comme ça ou...
C'est pas je me rajoute des frais, mais c'est quand j'ai un doute, je pars du principe que quand j'ai un doute, c'est que voilà. Parce que, écoutez, je paye plus d'impôts, je veux dire, ça sert à la collectivité, et voilà. Et puis, si jamais un jour je dois être ministre, au moins on viendra pas me chercher en me disant ah, attends, ça là, viens
sur Acropolis, François dit qu'il voulait être ministre, attention.
Et je pas dit que je voulais, mais je dis si jamais un jour j'ai des fonctions qui. Qu'on va chercher dans mes comptes. Mais pensez à Chaban-Delma. Chaban-Delma, lorsqu'il était Premier ministre, il avait bénéficié de dispositifs légaux, donc c'était licite, lui permettant de ne quasiment pas payer d'impôts. Et ça avait été révélé, donc c'était licite, hein, c'était légal, c'était pas illégal ce qu'il avait fait, mais ça avait été révélé par... c'est juste qu'il profitait de d'angle mort de la loi, et ça avait été révélé par Le Canard Enchaîné en... 72, allez vérifier, je suis pas sûr de la date, l'affaire de la feuille d'impôt de Chaban, et ça avait probablement participé à lui coûter l'élection présidentielle de 74. Je crois que c'est ça les dates, allez vérifier. Hein. Donc voilà, donc c'est bien la preuve que quand bien même tout faire dans la licéité ou/slash légalité ne suffit peut-être même pas forcément pour la différence entre légalité et moralité, effectivement, Ramsayer, etc. Mais voilà, mais il y a aussi avoir une phobie des feuilles d'impôt pour éviter les impôts. Après, c'est vrai que les fois d'après, ça va, c'est plus simple, mais la première fois que vous remplissez la feuille d'impôt, c'est une épreuve. Hein. Moi, ça m'a pris 3 semaines la première fois, c'était waouh, oh putain. Mais voilà. Quand tu vois des députés qui profitent d'aides pour rénover leur logement, mais c'est légal, oui, mais après, des aides pour rénover le logement, il y en a pour les particuliers aussi. Alors, je ne sais pas si elle est particulière, si elle est plus grande pour les députés, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Classique situation à la française, on laisse des détournements légaux et on fait les oies blanches quand les gens s'en servent. C'est vrai que les niches fiscales, tout ça... Feuille d'impôt servie au canard enchaîné par l'entourage de Pompidou. Ah bon ? Ah, je savais pas, Gérard. Je sais pas, tu tires cette info d'où je ne savais pas. Voilà. Je pense quoi de l'histoire des redressements fiscaux des ministres du gouvernement ? J'en sais rien, vous en pensez quoi, vous ? On s'en fout de mon avis. Ce que j'en pense, j'en pense que c'est du droit fiscal, que le droit fiscal c'est compliqué, que les redressements fiscaux qui ont eu lieu, l'administration fiscale a dit c'est des redressements fiscaux qui ont lieu, c'est des erreurs de bonne foi, voilà, et que pour celles qui ne sont pas de bonne foi, la ministre concernée, à savoir Laura Flessel, a été sortie du gouvernement. J'en pense que j'ai confiance en la justice et que voilà, il y a des critiques à faire à la justice et voilà, mais bon. Je pense que il serait nettement plus pertinent de se pencher sur les conflits d'intérêts que peuvent avoir certains ministres. On parlait de Muriel Pénicaud tout à l'heure. Ce serait nettement plus pertinent que les redressements fiscaux. Les redressements fiscaux, l'administration fiscale dit qu'ils sont faits de bonne foi. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux pas me dire plus compétent que des gens qui font du droit fiscal, qui sont comptables, qui sont fiscalistes, qui sont chargés, qui sont contrôleurs des impôts, etc. Très clairement, ils savent faire leur métier mieux que je ne sais faire leur métier. De la même manière que s'ils venaient me reprendre sur les streams, je leur dirais d'aller se faire cuire un œuf, parce que chacun son métier et les moutons seront bien gardés. En même temps, l'administration française, c'est tellement compliqué que s'il n'y a pas de redressement, c'est louche. De Gilles Legendre et sa femme qui s'occupe de la Française des Jeux. Je crois que... Vous savez, pendant le débatton, on parlait avec Édouard Philippe, et Édouard Philippe nous disait la situation n'est peut-être pas parfaite, mais elle est mieux que, qu'elle l'était il y a 20 ans, et c'est une analyse à laquelle je souscris. Notre situation est meilleure qu'il y a 20 ans, de la corruption sous toutes ses formes, au sens très large en politique, qu'il y en avait avant, et moins qu'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait aujourd'hui ? Non. Est-ce qu'il reste des choses à faire ? Oui, je peux vous en citer plein. Maintenant, des lois contre la corruption au sens très large en politique, il y en a eu, je les ai comptées, il y en a eu, je crois, 20 ou 25 dans les, depuis 2000. Donc, des choses sont faites, c'est de mieux en mieux, c'est pas encore parfait, il y a encore des angles morts qu'il faut, voilà. Mais je veux dire, si vous avez fait du droit, vous savez un truc qui est que la réalité est toujours plus inventive que le législateur. Vous faites une loi en espérant trouver toutes les failles qui peuvent exister, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on sépare le législatif du judiciaire, parce que le législatif il fait les lois, le judiciaire il est chargé de les appliquer, de juger. Pourquoi ? Bah parce que on s'est rendu compte avec l'histoire que prévoir toutes les situations c'est trop compliqué, et qu'il faut laisser une latitude au juge pour juger. Pour juger en fonction des cas d'espèce, parce que les cas d'espèce, si jamais dans la loi on devait prévoir tous les cas d'espèce, déjà qu'aujourd'hui la loi c'est compliqué de tout savoir vu le nombre d'articles de loi, si on devait prévoir tous les cas d'espèce dans la loi, ce serait encore plus compliqué. Donc c'est bien une balance entre les deux. C'est pour ça qu'on a ce système là entre des gens qui sont chargés de juger et d'autres qui sont chargés de faire la loi. Voilà. Que vous dire de plus que ça ? Ça serait bien que dans 10 ans, ça soit mieux qu'aujourd'hui aussi. Tout à fait. Ce n'est pas des discours qui sont mutuellement exclusifs. Je vous dis, quand je vous dis qu'il reste des trucs à faire, moi j'ai toute une liste en tête de choses à faire qui peuvent améliorer la situation. Vous voulez un exemple ? Les lois qui sont passées en 2017, la loi qui est passée en 2017 pour la moralisation de la vie publique, interdit, suite à l'affaire Fillon, interdit notamment que les députés puissent engager quelqu'un de leur famille. Ça c'est bien, c'est une évolution, c'est indéniablement une évolution, ça limitera des cas comme Pénélope Fillon, mais un angle mort qui reste, que visiblement le législateur n'a pas vu ou n'a pas voulu voir, j'en sais rien, ça dépend si vous voulez être mauvais esprit ou pas, un angle mort qui reste, c'est que si Raphaël et moi on est tous les deux députés, je peux pas engager mes enfants et il peut pas engager ses enfants, mais moi je peux engager ses enfants et lui peut engager mes enfants. Voilà un angle mort qui reste. Voilà. Et le jour où une affaire éclatera sur ce genre de cas de figure, eh bien il y aura une loi qui arrivera derrière et qui viendra corriger ça. Idéalement, il faudrait qu'il y ait une loi qui vienne le corriger avant, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Faut pas engager les copains non plus du coup. Après oui, moi si vous voulez faire une réforme c'est un avis. Mais je trouverais tout à fait pertinent qu'il y ait une réforme, qu'il y ait un statut des collaborateurs parlementaires, qu'il y ait une réforme sur encadrant la façon dont sont choisis les collaborateurs parlementaires, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas de la famille, mais ça reste encore beaucoup du copinage et des relations. Si vous avez fait, si vous voulez être collaborateur parlementaire, passez par les organisations jeunesse. Hein, c'est clairement plus simple. Vous rencontrez des politiques et du coup, le jour où vous postulez, c'est nettement plus simple de voilà. Mais comment vous voulez encadrer ça dans la loi ? Comment vous définissez copains dans la loi pour dire que vous n'avez pas le droit d'engager vos copains ?
Pourtant, Brassens, il disait toujours les copains d'abord, tu vois.
Je te déteste. Et les copains des copains, ouais, après, quand vous faites, et les copains des copains des copains des copains, dans la loi, on met que c'est interdit ou pas ? Et comment on définit copain ? Voilà, donc comment on
le définit ? Forcément le copain d'un autre copain, tu vois.
Comment on...
Moi, je suis peut-être le copain d'Emmanuel Macron.
Ta gueule ! Ferme-la !
Sur des tonnes de générations, je sais pas.
Comment on lutte contre ça ? On lutte contre ça en encadrant le statut des collaborateurs. Voilà. Ou en faisant des concours par exemple, mais est-ce que des concours pour des collaborateurs, c'est pour les collaborateurs parlementaires, c'est pertinent ? Je veux dire, si vous êtes collaborateur parlementaire et que vous avez des opinions de droite alors que vous retrouvez collaborateur d'un élu de gauche, est-ce que c'est pas problématique ? Vous voyez, c'est ça qu'il faut doser quand vous êtes en train de faire ce genre de réforme. Posez pas cette question, sinon on est parti pour une décennie de conflits doctrinaux, tout à fait. La loi n'est pas faite pour provoquer une situation parfaite, ceux qui l'attendent cherchent juste à justifier leur idéalisme aveugle. Ouais. Je sais pas, on a fait comment dans le reste de la loi? Bon, on a encadré ce genre de statut, tout, mon cher énigmatique. Il faut qu'une loi interdise les pistons. Mais va définir ce que c'est qu'un piston. Une lettre de recommandation, c'est un piston ou pas? Il gagne avec 7000 voix sur 120 000 inscrits. De quoi tu parles, Gulti? Non, c'est qui, Samy? Je ne sais pas.
Je t'informe, mon cher François, qu'il va bientôt falloir conclure, car nous avons une émission à
préparer. Ah oui, 16h45, derrière. Effectivement, j'avais pas vu. Il n'y a pas déjà un truc genre justifier l'embauche d'un collaborateur? Non, tu as une enveloppe, car je réponds très vite à ces questions et je conclue. Tu as une enveloppe pour engager entre un et plusieurs collaborateurs parlementaires selon la chambre dans laquelle tu es. L'enveloppe n'est pas de la même taille et donc pas le même nombre de collaborateurs. Si tu engages quelqu'un de... Alors attends, c'est quoi le délire? Si tu engages... Tu dois justifier certaines embauches, je ne sais plus lesquelles. Ou alors tu devais justifier certaines embauches et aujourd'hui elles sont interdites, je sais plus, à vérifier. Ah, l'histoire de la cravate, très juste. J'en parle très vite juste après. Mais sinon, c'est un contrat de droit privé entre l'élu et le collaborateur. Le fait d'engager des collaborateurs parlementaires. Et alors pour l'histoire de la cravate, du coup, j'ai pas le temps de vous faire deviner, mais l'histoire de la cravate, moi je m'étais posé la question dans un boulot particulièrement ennuyeux où j'étais pendant une des épisodes de canicule très bref en costard cravate dans un bureau seul alors qu'on recevait pas de clients, à m'ennuyer et à crever de chaud. Je m'étais demandé à quoi servait la cravate. Je me demandais si c'était, je sais pas, une laisse, un truc pour se pendre, un machin extrêmement machiste qui dit c'est par là ou autre chose. Et en fait, l'histoire de la cravate, c'est que ça vient, c'était... alors, j'ai pas de cravate, donc je peux pas le faire, mais c'était, vous savez, les espèces de trucs, les machins, les cravates bouffantes qui font comme ça, etc. C'était des trucs comme ça à l'origine, portés par des soldats croates, c'est de là que vient le nom cravate, pour se protéger du froid, et en tout cas, c'est ce que j'avais lu à l'époque, hein. Je suis pas historien de la cravate.
Protection.
Et que ça s'était rentré, c'était des gradés militaires, enfin les gradés militaires portaient ça du coup pendant des réceptions, et ça avait intégré la société comme ça, et ça s'était petit à petit transformé en les cravates telles qu'elles sont aujourd'hui, qui, soyons concrets, ne servent à rien à part décorer.
C'est quoi les vasistas?
C'est quoi les vasistas?
Je sais même pas si c'est vrai, mais tu sais, il y a des gens qui attends, je suis peut-être en train de dire une grosse connerie. Attends, vas-y, ça existe les vasistas, je suis pas fou. J'ai l'impression que c'est... Oui, les vasistas, c'est des petites ouvertures.
Ouais, ouais.
Voilà.
Et c'est quoi l'histoire?
Des gens qui, je sais pas, qui disaient, je crois que c'était des soldats allemands qui montraient ces trucs-là et qui disaient vasistas.
Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Je vois. Voilà. Bon, les amis, il faut conclure. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous embrasse. Je vous dis à. C'est mardi prochain qu'on a le. Je vous dis à mardi prochain, c'est bien ça?
Ah non, demain.
Ah oui, demain, je suis con. Pardon, je suis moi, déjà si dans la session extraordinaire.
Si t'as pas envie, tu fais ce que tu veux.
Quelle différence entre les QAG du mardi et celle du mercredi? Aucune. Ce serait pas envisageable de faire toutes les questions d'une fois. Si, ce sera le cas à partir de septembre, Samy. Je suis désolé, il faut que je conclue, donc, parce qu'on a une émission juste après. Juste après, vous pouvez retrouver Dorian qui reçoit des gens de chez Mediapart. Et qui... Quoi?
18h30.
À 18h. Bah, ça va, on est large. Ça va, on est large. C'est à 18h30 Dorian qui recevra des gens de Mediapart. Tiens.
Tu vas twerker.
Bonsoir à tous. Eh oui, venez nombreux à 18h30. J'espère que c'était bien l'émission.
Il faut t'asseoir, il faut que tu descendes.
Ah, pardon.
Je vous présente Dorian qui est à 18h30. Tu reçois qui à 18h30?
Stéphane Aliès de Mediapart.
Stéphane Aliès qui est co-rédacteur en chef, c'est ça?
Exactement, co-directeur éditorial
à
Mediapart.
À Mediapart. Et est-ce qu'il y aura Usul? Il n'y aura pas Usul.
Eh ben,
peut-être dans le chat.
On va parler. Peut-être un petit peu de la gauche.
Ah, intéressant.
C'est possible. Et donc, peut-être Usul traînera dans le chat. Usul 2000.
Qui peut-être, est déjà voilà. Là, d'ailleurs. Donc, rendez-vous à 18h30 avec Dorian. Et j'ai un bout de scotch tel le capitaine Haddock. et voilà. Moi, je vous dis, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Un grand merci à nouveau aux trois bénévoles qui ont préparé les fiches, à savoir Tristanza, Delphine et Sainte le Tyran. Un merci à la régie, à Thibaut, à la technique, à tout le monde, à ma mère et mon père,
à Macron,
à ma circonscription, à Macron, je sais pas,
au gouvernement qui finance nos émissions.
À ma femme que je n'ai pas et voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain 14h30 et sinon rendez-vous à 18h30 avec Dorian. Bisous, ciao.